Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech. Une émission du 24 juin 1998, rediffusée dimanche 3 janvier 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir, mesdames et messieurs les collabos. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous avez vu que maintenant, ils expulsent.
On se met à expulser les étrangers délinquants. Donc, c'est bon signe. Dans quelques temps, on va vraiment expulser les étrangers délinquants. D'ailleurs, au fond, on peut s'interroger sur ce qui est en train de se passer, parce que on a le droit maintenant d'être raciste. Si vous lisez France Soir d'avant-hier, Parisien Libéré, Libération, même Le Monde, on a le droit de dire du mal des gens à raison de leur nationalité. On peut dire les salauds de boches, ordures d'anglais. Alors pour l'instant, on a le droit de dire qu'à propos des boches et des anglais. Mais attendre un petit peu, à mon avis, ça va progresser. C'est pour ça que je disais, mesdames et messieurs les collabos, vous êtes sur la bonne voie. Cela dit, les hooligans sont vraiment des imbéciles. Je suis obligé de le dire. Bon, parce que si, au moment où on les arrête, ils n'avaient pas sur eux leurs papiers, comment voulez-vous les expulser? Alors on leur dirait, monsieur, vous êtes un hooligan. Ils diraient, mais comment le savez-vous? Enfin, dans leur langage, comment tu le sais? Il suffirait qu'ils travaillent un peu leur accent. Alors dire, mais vous êtes un hooligan allemand, vous êtes un voyou allemand. Non, hein, moi je suis de cité. On ne peut pas les expulser, ils n'ont pas de papier. C'est très facile de passer de hooligan expulsable en procédure d'urgence à jeune non expulsable. Alors vous allez me dire, mais tout le monde le voit. Tout le monde voit quoi? Tout le monde voit quoi? Il y aurait une différence visible entre les jeunes allemands et les jeunes des cités? Qu'est-ce qui parle de ça? Vous n'allez pas me dire qu'il y a des races maintenant, c'est nouveau ça. Comment voulez-vous qu'un policier, à partir du principe que tout le monde accepte dans ce bas monde, c'est que les races n'existent pas, tout le monde est au courant de ça, sauf les médecins quand même. Parce que là encore l'autre jour, j'ai reçu un document qui m'a été envoyé par un auditeur-lecteur, où j'apprenais que pour faire les tests pour savoir si une personne qui était enceinte, une dame enceinte, n'avait pas de risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21, on pose des questions. Il y a donc une liste de questions qui sont posées avant de faire le prélèvement de liquide amniotique, si je ne m'abuse. Et parmi ces questions, il y a la race. Donc, visiblement, ces médecins savent pas que les races n'existent pas. Mais Chevènement le sait, les policiers le savent, donc les races n'existent pas. Alors quand ils ont devant eux un type qui a tapé sur un flic, comment voulez-vous qu'ils sachent si le gars n'a pas ses papiers sur lui, si c'est un hooligan allemand ou un jeune des cités? Puis les races n'existent pas, ils peuvent pas le savoir. Donc ils sont obligés de se référer à ce que va dire le jeune qu'ils ont devant eux. Alors, il y a des trucs pour dire la différence entre les hooligans et les jeunes. Alors on va chercher, par exemple, les hooligans sont jeunes. Bon, les jeunes aussi. Les hooligans cassent. Les jeunes aussi. Les hooligans n'aiment pas les flics. Les jeunes non plus. Les hooligans sont étrangers. Les jeunes non. Les hooligans sont généralement en provenance de milieux défavorisés. Les jeunes aussi. Les hooligans ne parlent pas français. Les jeunes non plus. Alors, comment voulez-vous reconnaître un jeune d'un hooligan? C'est impossible, dans la mesure où les races n'existent pas. Alors, je lance un conseil là aux hooligans. Quand vous êtes arrêté, when they sind arrested, ou when you are arrested, il faut leur parler en anglais, vous jetez vos papiers et vous dites, oh, je viens de la Courneuve. Et puis ça y est, vous êtes tranquille, vous êtes inexpulsable en urgence, ou même autrement. Mais c'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va encore dire que je donne des mauvais conseils, mais c'est surtout pour que soit respecté le principe démocratique de la non-application de la double peine, parce que, si vous voulez regarder ces petits jeunes, les jeunes allemands par exemple, on leur applique la double peine, puisqu'on les expulse de France et ils vont être condamnés en Allemagne. Alors, c'est quand même pas juste, non. Puisque la double peine, on est contre. Alors je vous dis, hooligans de tous les pays, transformez-vous en sans-papiers. Et là, vous êtes invirables. Parce que le premier flic qui dira, mais enfin, on voit bien que c'est pas un jeune des cités, il va être inculpé pour racisme, pour incitation à la haine raciale. Hein? Voilà, ce conseil était gratuit. Ce soir, je reçois Monsieur André Figueras, monsieur, pour son livre Le palimpseste de Vichy, on dira aux jeunes ce que palimpseste veut dire tout à l'heure. Enfin aux jeunes, je veux dire aux jeunes gens, pas, je parle pas des jeunes. Monsieur Pierre Sidos, président de l'œuvre française, qui est, avec qui on va parler du 50e anniversaire de Jeune Nation.
40e.
Ouais, j'allais dire, ça me rajeunit pas. Mais oui, c'est 40e, bien sûr. Tout à l'heure, nous recevrons Bernard Molinier. Nous avons là l'invité surprise, qui est monsieur l'abbé Argouache, qui est venu avec sa jambe cassée et ses béquilles. Philibert est là pour faire de la musique.
De la musique militaire.
Militaire, bien sûr. Qui est à la musique, ce que la médecine militaire...
est à la chirurgie militaire.
Nous avons également M. Chaminade, qui est président d'une association de bibliophiles, qui nous parlera de... et puis surtout responsable du marché Brassens, où on vend des livres, comme son nom ne l'indique pas. Qui nous parlera d'une exposition de société bibliophilique. J'attends François Guillaume. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a été... peut-être qu'il a du mal sur son vélo. Les pneus doivent coller à l'asphalte. Et dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai monsieur Joël Ménard, qui est directeur de Lumière dans la nuit, avec qui nous parlerons de soucoupe volante. Ça va être drôle, ça. Et puis, est-ce que j'ai cité Bernard Molinier? Non. Alors, je le cite deux fois. Voilà, donc j'étais pour dire une chose, c'est que... Oui, il y a une chose amusante, tiens. Il y a un type qui vient d'ouvrir une boucherie dans le sentier, il l'a appelée boucherie Adolf Eichmann. Ah non, pardon, non, excusez-moi, je me trompe complètement. C'est dans le Limousin, il y a un Algérien qui vient d'ouvrir une boucherie, et il l'a appelée la boucherie Khalid El Ibn El Walid. Alors, il faut savoir, je le dis pour les jeunes gens, qui nous écoutent et qui ont pas forcément fait d'histoire, c'est que Khalid ibn al-Walid, c'est un boucher arabe qui a massacré des centaines et des centaines et des milliers d'infidèles à l'époque où on pouvait massacrer des infidèles sans passer immédiatement, sans risquer d'être expulsé en procédure d'urgence. Et donc il y a un Limousin, un maghrébin, qui a ouvert une boucherie et il lui a donné le nom de Khalid ibn al-Walid, ce qui, pour des gens qui connaissent l'histoire, correspond à peu près à baptiser une boucherie Adolf Eichmann dans le sentier, ce qui serait assez mal vu. Tandis que la boucherie Khalid ibn al-Walid en Limousin, tout le monde s'en fout, parce que les Limousins qui savent qui c'est, ils sont pas plus Limousins que moi, et les Limousins qui sont vraiment Limousins, ils savent pas qui c'est. Voilà, les amateurs de musique et de Brasillac pourront aller entendre demain, je pense à le dire dès maintenant, le docteur Merlin chez la Mérégité, rue Campagne Première, c'est 21 rue Campagne Première. C'est un bon restaurant où on mange et où on peut chanter. Voilà, alors je disais que André Figueras avait écrit un ouvrage qui s'appelle Le palimpseste de Vichy. Donc André, première chose, soyez gentil de nous dire ce qu'est un palimpseste, parce que véritablement...
Eh bien, vous connaissez sans doute la fameuse histoire du diplomate français qui avait acheté un Tiepolo en Italie et qui s'est dit « je pourrais pas le passer à la frontière parce que les douaniers vont me dire que c'est propriété nationale ». Alors il a fait peindre un Victor Emmanuel sur le Tiepolo en se disant « je le ferai gratter une fois en France ». Une fois en France, il a fait gratter le Victor Emmanuel Et l'artiste qui travaillait cela lui dit, mais sous votre tiepolo, il y a quelque chose. Alors, il a dit, après tout, il y a peut-être alors quelque chose du 15e siècle. Eh ben, c'était un Garibaldi sous le tiepolo.
C'est très amusant.
Alors, le palimpseste, c'est quelque chose qu'on écrit ou qu'on peint sur ce qui existe précédemment et qui se superpose au texte d'origine ou à la peinture d'origine. Et c'est pour cela que j'ai défini cela, pour démontrer ce qu'était en réalité le régime de Vichy et ce qu'il y avait dessous ou dessus. Et pour présenter ce petit livre, j'ai imaginé un jeu de société qui réussit assez bien. Je dis aux gens, on vous explique qu'actuellement, il y a une catégorie de gens très bien qui sont les républicains, et puis il y a une catégorie de gens abominables qui sont les vichistes. Alors voulez-vous, s'il vous plaît, sortir votre portefeuille et de ce portefeuille extrayer le nouveau billet de 100 francs. Ce billet de 100 francs...
Encore faudrait-il en avoir.
Oui, mais enfin, c'est encore banal. Bon, bah. Ce billet de 100 francs, il avait été imprimé à l'effigie des frères Lumière, qui sont les inventeurs du cinéma, de grands industriels, qui ont fait la prospérité de Lyon et de toute la France. Et le canard enchaîné s'étant aperçu que l'un des frères Lumière avait été membre du Conseil national de Vichy, on a pilonné ces billets et on en a fait d'autres à l'effigie d'un grand républicain, Gustave Eiffel. Alors tout le monde connaît Gustave Eiffel parce qu'il a fait la tour et le viaduc de Garabit, et un certain nombre
de choses. Il
n'a d'ailleurs
pas du tout fait la tour, entre parenthèses, mais bref.
Bon. Mais ce que personne ne semble savoir, c'est que ce Gustave Eiffel était aussi une parfaite fripouille. Condamné à 2 ans de prison et à 30 000 francs or d'amende pour abus de confiance.
Il aurait mérité d'être député, alors.
Et car lorsque l'ESSEPS s'est trouvé embarrassé par ses travaux de Panama, qui se présentaient beaucoup plus mal que prévu, il a demandé à Eiffel de se substituer à l'entrepreneur qui faisait les déblaiements. Il s'est dit, Eiffel est célèbre, ça passera mieux. Et Eiffel lui a dit, ah, moi je veux bien, mais vous payiez 7 francs le mètre cube, maintenant ça sera 32 francs, toujours en francs or. Alors Eiffel a donc été condamné. Naturellement, la Cour de cassation, qui a l'habitude de rendre des services plutôt que des arrêts, a déclaré qu'il y avait prescription et l'a blanchi. Ou plus exactement, a annulé la procédure sous prétexte de prescription. Et il a tout de même fallu qu'Eiffel verse 3 millions de francs or pour se dédouaner. Alors donc, voilà qui est typique.
Il a versé qui, pas au président de la Cour de casse?
Non, ah bon, peut-être pas, mais il l'a versé, je ne sais plus si c'est à l'ESSEPS ou si c'est à l'État. Mais en tout cas, voilà qui est typique.
Non, je dis ça parce qu'à l'époque, on pouvait envisager, maintenant ce serait plus possible, évidemment. Oui, on n'imagine pas d'acheter un magistrat.
D'ailleurs, si,
mais
bon,
il y a 100 ans,
je ne veux pas vous parler de Panama, mais la Troisième République a commencé dans la pourriture, comme la Cinquième va y finir. Il y a un parallélisme extraordinaire, mais enfin, c'est pas de ça que j'ai voulu parler. C'est de Vichy. De Vichy, parce qu'on nous raconte maintenant toujours le régime de Vichy, la police de Vichy, etc., etc., etc. Et en fait, moi je dis, qu'est-ce qu'il y avait à Vichy? Il y avait d'abord, en France, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des couches superposées. Il y avait d'abord l'armée allemande, avec tous ses pouvoirs, qu'on semble oublier, parce que maintenant, il n'y a plus que Pétain, Hitler, ça n'existe pas, c'est Pétain qui a fait tout le mal. Bon, alors il y avait l'armée allemande, qui était la grosse chose. Et puis il y avait le gouvernement du maréchal, qui était quelque chose qui essayait de protéger ce qu'on pouvait protéger. Et puis en dessous, il y avait l'administration française, qui était l'administration républicaine. Quand on nous parle de la police de Vichy, le maréchal n'a pas sorti une police de son képi. Il a été obligé de prendre la police qui avait été nommée par qui? Par Salengro, par Sarraut, par Mandel. Alors d'ailleurs, De Gaulle, qui dit toujours la vérité en mentant, il y aurait à étudier extraordinairement la chose. De Gaulle dit toujours la vérité, mais toujours en mentant. Et quand il a réuni les flics en 44, à la Libération, à Paris, pour leur remettre la fourragère rouge, ce qui a un peu surpris un certain nombre de résistants qui avaient été arrêtés par ces mêmes policiers.
Enfin, ceux qui n'étaient pas morts, ceux qui n'avaient pas été assassinés.
Il a dit, cette police, que sa fonction maintient sur place. Eh bien alors, c'est la définition de la collaboration. Bon, je ne jette pas la pierre à la police, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. mais je constate que toute l'administration républicaine est restée en place à l'ombre du maréchal, avec la ferme intention, lorsque il faudrait rendre des comptes, de tout rejeter sur le maréchal, de dire c'était les ordres de Vichy, alors c'était pas les ordres de Vichy, c'était les ordres allemands, et la justice était aussi la justice, on ne crée pas une justice de briques et de brocs comme ça tout d'un coup, et c'était les magistrats qui étaient en poste sous la Troisième République, etc.
Qui sont d'ailleurs restés en poste.
Qui sont d'ailleurs restés après, en poste, après avoir tous prêté serment au maréchal. Le seul qui n'a pas monté en grade, c'est le seul qui n'avait pas prêté serment au maréchal, un nommé Didier.
Mais donc, les mêmes magistrats qui avaient condamné les résistants ont condamné les collabos après la libération.
Bien sûr.
Il faut lire Galtier Bossière si on n'a pas encore.
Dans un autre exemple, les cheminots. On nous a fait tout un patafard avec la bataille du Rail, qui était un film pas mal fait d'ailleurs, mais tout à fait truqué. Il y a à la gare de l'Est une magnifique plaque de marbre pour rendre hommage aux cheminots qui, par leur intense travail, ont accéléré le retour des déportés. Et par leur intense travail, ils les avaient emmenés. Il faut tout de même savoir que le dernier convoi de déportés est parti de Bordeaux le 15 août 44, à une époque où toute la France était soulevée, où la Wehrmacht était dans la débâcle, et ce convoi, avec des difficultés extraordinaires qui prouvent une conscience professionnelle admirable, ce convoi est quand même arrivé jusqu'en Allemagne avec ses déportés.
Ça dit, il faut reconnaître que les Allemands étaient quand même pas à moitié fous de continuer à emporter des déportés, si j'ose dire, alors qu'eux-mêmes étaient en pleine débâcle.
Tout ça était absurde, mais cette année 44, tout le monde est sombré dans la folie.
Hervé Le Botterf, qui est venu il n'y a pas très très longtemps dans cette émission, parlait de son livre La vie parisienne pendant l'occupation, remarque dans ce livre une chose qui est du même ordre, André Figueras, c'est que pendant toute l'occupation, les fameux ouvriers du livre, les durs des durs du Parti communiste qui sont dans toutes les imprimeries du labeur, et les imprimeries de presse plus exactement, ont publié la presse collaborationniste et la presse allemande à Paris, dont le Pariser Zeitung, sans un jour de grève.
Bien sûr.
Il
n'y
a pas eu un jour de grève dans les imprimeries françaises.
Si vous prenez un autre exemple à Chartres, l'aérodrome de Chartres, il y avait une base de la Luftwaffe, c'était les ouvriers communistes qui réparaient les avions allemands, et là, ils ne les sabotaient pas comme ils sabotaient les nôtres en 1939. C'est la différence. Et dans tous les domaines, alors, il y avait maintenant le problème de la résistance, parce que la résistance vraie, qui a été peu de choses et qui a été décimée, très souvent sur délation, en particulier des communistes. Parce que cette résistance vraie, elle embêtait tout ce qui était en place et tout ce qui voulait y rester. Car je sais fort bien quelle était notre mentalité dans cette petite résistance vraie. On ne voulait plus revoir la Troisième République pourrie et tous ses pourrisseurs. On voulait liquider tout ça. On ne savait pas très bien d'ailleurs ce qu'on mettrait à la place, mais on voulait liquider tout ça. Alors cette résistance, elle ne faisait pas du tout l'affaire de l'administration républicaine qui comptait bien avoir vécu sous la terreur, comme Sieyès, et rejeter toutes les responsabilités sur le maréchal, et puis réapparaître tranquillement dans une quatrième république conforme à la troisième. Et la résistance ne voulait pas de ça, donc on a saqué la résistance, et on lui a substitué une fausse résistance organisée de toutes pièces, avec des gens sûrs, des gens qui souvent avaient plus ou moins collaboré, et qui par conséquent avaient besoin de se dédouaner, à qui on donnait des assurances, car De Gaulle, encore lui, disait « Les circonstances ont été exceptionnelles, souvent absolutoires, en raison des ordres du gouvernement de Vichy ». C'était pas les ordres du gouvernement de Vichy, on pouvait toujours ne pas y obéir, ou tout au moins y obéir très discrètement. Je vais vous donner un exemple de résistance passive que j'ai vécu pendant quelque temps. À un moment donné, tout mon réseau et mon père même ayant été arrêtés, je ne savais plus quoi faire, je ne pouvais pas rentrer chez moi, et j'ai trouvé un refuge pendant un moment au chantier du barrage de Génicia, qui était entre les mains de gens de la résistance en fait. Et les Allemands comptaient beaucoup sur ce barrage de Génicia pour avoir une source d'énergie importante, de sorte que c'était prioritaire pour toutes les fournitures. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait claquer des bombes, des explosifs toute la journée. On avait besoin de tonnes de ciment pour boucher les trous qu'on creusait. On saccageait comme ça. Ça, c'était de la résistance passive efficace. C'était pas d'aller tuer des gens qui vous déplaisaient ou de les piller. Mais cette résistance-là, c'était pas celle qu'on a ensuite montrée au peuple. Car elle n'en valait pas la peine, Dieu sait. Contrairement à la tête de Danton.
Alors, ce que vous expliquez aussi dans le palimpseste de Vichy, palimpseste, à propos, un auditeur nous dit, palimpseste, c'est pas exactement ce que vous dites. C'est un parchemin qui a été raclé, dont l'écriture précédente a totalement disparu.
Ah non, je ne crois pas.
Et on réécrit par-dessus.
Ah, moi, je crois pas. Je crois
que c'est débat deux
écrits. Oui, enfin, bon, c'est un débat grammatical.
Ami auditeur, à vos dictionnaires.
Oui.
J'apprends que M. François Louis II, qui était ministre du...
Ah, est mort.
Maréchal Pétain, et qui était le père de la synarchie qui n'a jamais existé.
Oui.
Il est venu l'expliquer l'autre jour.
Oui, oui.
À ce micro. François Louis II est mort, on a célébré ses obsèques. Il avait pas loin de 98 ans. Et il était, on l'a entendu l'autre jour dans l'émission de Jean Ferry, il était en dehors du fait qu'il mentait comme un arracheur de dents en prétendant que jamais la synarchie n'avait existé. Alors, ça c'est quand même extraordinaire.
En fait. Oui.
Le I2 venant expliquer que la synarchie n'a pas existé, c'est à se taper le derrière contre la suspension.
Oui.
Enfin, il savait très bien ce qu'il faisait en mentant. J'emploie le mot mentir dans ce cas-là, dans son sens le plus noble.
Mais oui.
Quelle prodigieuse intelligence et quelle prodigieuse jeunesse.
Mais oui, il est mort très brusquement.
Et
on a vu non plus, pas de notice nécrologique, rien du tout, comme pour Madame
Salan,
le même silence.
Je le voyais bien parti pour battre, aidez-moi. Non, pas Jeanne Calment quand même, l'écrivain allemand, qui est mort à 103
ans. Ah oui.
Ernst Jünger.
Ernst Jünger, oui.
Alors, un auditeur nous fait savoir qu'il n'est pas du tout d'accord avec le maréchal Pétain. Il est un peu tard pour s'en apercevoir. Mais il dit que c'est un vieux bonhomme qui a fait des choses épouvantables et qui s'est mal entouré. Alors, je sais pas qui est cet auditeur.
C'est un peu sommaire, comme définition.
C'est dommage que cet auditeur ne soit pas manifesté en 39, parce que...
Oui, enfin, s'il avait l'âge.
Forcément, puisque pour pouvoir critiquer, il faut avoir été capable de faire...
Eh oui, je pense.
Donc, il aura en 39, il se serait signalé, on aurait pu le choisir pour diriger les destinées de la France.
Je dois dire qu'à l'époque, d'ailleurs, j'étais pas du tout pétainiste. Ce qui me donne d'autant plus de liberté pour en parler. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était petit. Un jour, l'amiral Auffan m'a dit, est-ce que dans la résistance, vous avez tué des gens? Alors, je lui ai dit, non, amiral, je me suis essentiellement borné à fournir des faux papiers aux gens qui n'avaient pas de papiers faux et qui ne voulaient pas partir en travailler en Allemagne.
Vous étiez comme les cinéastes, quoi. Vous étiez pour les sans-papiers.
Voilà.
Oui, je disais, le palimpseste de Vichy, il y a un aspect qui est tout à fait intéressant dans ce bouquin, dont vous n'avez pas parlé pour l'instant, mais peut-être que vous ne voulez pas l'approfondir, parce qu'il ne faut pas déflorer le livre. C'est toute la description que vous faites de l'espèce de complot génial et diabolique par lequel on a utilisé le maréchal, la Troisième République, toute la canaillerie de la Troisième République a utilisé le maréchal comme paravent, comme pique-feu, râteau à tirer les marrons.
Jean Monnet a dit une bouée de sauvetage.
Ouais.
Car effectivement, sinon, en 40, ils étaient foutus. Le peuple français ne pensait qu'à les balancer dans la flotte, que ce soit l'Allier, la Seine ou la Méditerranée. D'ailleurs, ceux qui sont partis sur le Massilia ont vu comment ils ont été reçus à Casablanca. Et c'est le maréchal. Je dis que le maréchal a sauvé la France, mais il a aussi, il n'a pas pu faire autrement, il a sauvé la République, qui a duré sous lui, en s'abritant sous lui et en l'accusant ensuite de tous les maux, et il a même sauvé De Gaulle, car il est évident que s'il était parti en Algérie, comme le voulait Auffan et quelques autres, et je ne critique pas non plus. Je comprends fort bien qu'il se soit dit, si je m'en vais, les Allemands vont en trouver prétexte pour déchirer complètement le peu qui reste d'armistice, il n'y aura plus aucune protection. Il avait juré de rester pour protéger les Français, il a eu tort ou raison, j'en sais rien. Et moi j'admire beaucoup les gens qui tranchent, les gens qui vous disent il fallait pas signer l'armistice, ils savent tout ça maintenant, eux, ils ont bien de la chance, moi je ne sais pas.
Je voudrais bien savoir d'ailleurs où ils étaient au moment où le maréchal Pétain a signé l'armistice. C'est vrai, ils étaient la paille au cul sur les routes de France,
probablement,
en train de cavaler dans l'histoire.
Probablement.
Donc,
ils se sont rendus parce qu'ils
n'étaient pas nés.
Oui, ils n'étaient pas nés.
Alors, la plupart n'étaient certainement pas nés.
Ceux qui retirent absolument le droit de parler de ces choses, à mon avis, si on ne les a pas vécues. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'était que la situation.
Vous savez, quand on voit qu'aujourd'hui, on appelle Préjlocage, le danseur qui a quitté Toulon quand la municipalité Front National
a pris la mairie par les urnes. Alors, Prège-Locage a démissionné le lendemain, il est parti danser ailleurs, on l'appelle un résistant. Mmh. Alors évidemment, si les gens croient que c'est ça la résistance, c'est normal qu'ils s'étonnent qu'en 40, 41, 42, 43, 44, il n'y ait pas eu plus de résistants. Parce que s'il suffisait pour être un résistant à l'époque de déménager d'une ville occupée par les Allemands pour aller s'installer dans une ville qui n'était pas occupée par les Allemands, c'est-à-dire en gros de franchir la ligne de démarcation, évidemment, c'était pas difficile d'être résistant. Seulement, c'était quand même une autre paire de manches, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en parle par mes lectures.
C'était autre chose.
Quand je lis, je parlais tout à l'heure de Galtier-Boissière, et que je vois que, par exemple, vous parliez de la police de Vichy tout à l'heure. Vous évoquiez cette espèce d'arnaque intellectuelle qu'on appelle la police de Vichy. Eh bien, Galtier-Boissière raconte que le jour de la Pentecôte 1942, il me semble que c'est 42 ou 43, en tout cas, le jour de la Pentecôte, en pleine occupation, un groupe de jeunes du PPF sort de la mutualité et remonte vers le Panthéon en criant des slogans antisémites. Et ils prétendent descendre par la rue Soufflot jusqu'au boulevard Saint-Michel pour dévaler le Mont-Saint-Michel. Ils sont en chemise bleue avec les baudriers. Mmh. Le PPF, c'est le parti de Jacques Doriot. Jacques Doriot, il est membre du Conseil national. C'est une éminente personnalité du pouvoir, de l'époque, du régime. Et donc les jeunes de son parti, en pleine occupation, défilent sur la rue Soufflot en criant des slogans antisémites. Et au bout de la rue Soufflot, il y a un cordon d'agents de police à pèlerine qui dit « Non, vous n'entrez pas sur le boulevard Saint-Michel, vous ne descendez pas le boulevard Saint-Michel ». Les jeunes du PPF, qui ont avec eux le pouvoir, tout ce qu'on peut imaginer, disent qu'on va quand même pas obéir à une file de poulets mal dégrossis, et ils essayent de forcer le barrage. Et les flics les mettent en fuite à coups de pèlerine, et en leur tapant dessus avec leur bâton blanc. C'est raconté par Galtier-Boissière, qui en est le témoin. Alors quand vous dites aujourd'hui à un jeune homme de 20 ans ou de 25 ans qu'en pleine occupation à Paris, les représentants d'un parti collaborationniste qui était dirigé par un des chefs du régime pouvait se faire taper sur le coin de la figure par des flics à bâton blanc parce qu'ils prononçaient des slogans antisémites, le jeune vous regarde comme si vous étiez un fou. Mmh. Parce que le mensonge est tellement énorme à l'heure actuelle que plus personne n'ose dire la vérité.
Justement, ce que j'explique aussi, parce que je ne veux pas accaparer ce micro trop longtemps, c'est comment s'est faite la grande collusion entre les communistes et les gaullistes. Le colonel Trinquier parlait toujours du gaullo-communisme, mais il y a eu une grande collusion parce que les communistes qui avaient trahi en 39-40 avaient besoin d'une réhabilitation et les gaullistes avaient besoin d'hommes de main. J'ai cité ce document d'un officier français qui revenant d'Alger, nommé à Paris juste au moment de la libération, passe en Dordogne où ses parents étaient, il passe en Dordogne pour les voir, il constate ce qui se passe dans ce département sous la terreur rouge, et une fois arrivé à Paris, il fait immédiatement un rapport en disant « Mais qu'on me donne un régiment de spahis, moi je remets tout ça en ordre. » Et l'amiral Barjot, qui est chef d'état-major, lui répond « Ne dites rien, ne faites rien, le général a besoin des communistes. » Il avait besoin des communistes pour semer la terreur et apparaître comme le sauveur. C'est toujours le même système. Et alors, on a réhabilité les communistes et on traite maintenant de martyrs de la résistance, des gens qui ont été fusillés comme otages par les Allemands parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils avaient été arrêtés en 39-40 sabotant la défense nationale française, parce que c'était des traîtres. Et maintenant, ce sont devenus des martyrs de la résistance.
Notamment, un des otages de Chateaubriand est un communiste qui était en prison parce que, au moment du départ sur le front, il allait voir les gars qui partaient à la gare de l'Est en leur disant « Bon, les petits gars, je compte sur vous, crosse en l'air.
Ah » oui.
Alors, il s'est fait piquer par les flics, il a été foutu en prison. Et quand il était en prison, il a été arrêté, il a été conduit à Chateaubriand, il a été fusillé comme otage. Mmh. Et maintenant, son nom figure dans la liste des otages de Chateaubriand comme d'un héros de la résistance, alors que c'était un pacifiste.
Mais tout est truqué. Tout est truqué, c'est ce que j'ai essayé de montrer en essayant de rétablir ce que j'appelle une conversion de l'histoire, parce que convertir, ça n'est pas seulement, mon père, un terme qui concerne les âmes, c'est aussi quelque chose qui concerne la rente, par exemple, qui concerne tout ce que l'on remet en ordre. Et donc j'ai essayé modestement de convertir l'histoire de Vichy qui a besoin d'être mise en place.
Merci André Figueras. Ça s'appelle Le Palimpseste de Vichy. C'est un petit livre extrêmement vigoureux et merveilleusement écrit, comme toujours. Vous prenez la plume, ben non, c'est vrai. Ça fait quand même quelques années que ça dure.
Ça durera plus autant.
Pourquoi, on ne sait pas. Vous voulez pas. Ah. C'est pas vous le patron.
Non.
Tu ne connaîtras ni le jour ni l'heure.
Oui. Voilà. Il viendra comme un voleur.
C'est paru donc aux éditions Publication André Figueras.
On n'est jamais si bien servi par soi-même.
C'est le meilleur moyen de ne pas se faire voler par un éditeur.
Ni censuré.
Boîte postale 2843. 75028 Paris, CEDEX 01. Ça vaut 100 francs franco, si j'ose dire.
Du moment que ça vient de courtoisie, on ne chicanera pas.
Bon. Alors, je rappelle l'adresse. Notez bien, boîte postale 28, trait d'union 43, 75028 Paris, CEDEX 01.
Et naturellement, on le trouvera dimanche.
Eh bien, bien sûr, vous serez des nôtres. Il est des nôtres. Merci André. Sauvez-vous parce que vous avez une réunion là pour parler d'une chose très importante, mais vous reviendrez nous dire de quoi il s'agit dans une prochaine émission. Alors, j'ai une information qui me vient là, qui vient d'arriver. Voilà, une bande de hooligans a attaqué un commissariat. À Château-Renard, et leurs revendications ont été taguées sur les murs, et c'était une mosquée pour tous. Alors là, je comprends plus rien, là, non ? Si les hooligans se mettent à réclamer des mosquées, ils foutent le feu au commissariat pour avoir des mosquées. C'est à moins qu'il y ait peut-être une confusion, c'est peut-être pas des hooligans. On peut pas savoir. À propos des hooligans allemands, un journaliste a dit : « Nous ne savons toujours pas si c'est un néo-nazi. » C'est-à-dire, en réalité, le gars, il ne doit même pas savoir qu'il y avait des nazis en Allemagne il y a 50 ans. Un auditeur, à propos de nazis, nous dit « Vous êtes de vieux réactionnaires anti-allemands. Vive l'Allemagne éternelle. » Voilà. Vous n'avez pas un petit chant à nous proposer qui pourrait illustrer ce propos ?
Non, mais j'ai une très belle marche, si vous voulez, Serge, on pourrait l'écouter.
Ah.
C'est la marche de la libération qui a été composée en 1940 par une réfugiée de 19 ans, Yvette Oyot.
Mais elle avait pris de l'avance.
Elle savait déjà que la France allait sortir de ses épreuves.
Bon, écoutons la marche de la libération. On voit bien que c'est une femme qui a écrit ça. Elle n'a pas dû marcher sous vos pas.
Ouais, c'est une femme qui a écrit cette marche, mais dans Paris occupé, c'est avec l'aide de Paul Bock, qui est chef de la musique de la cavalerie de la garde républicaine, que des arrangements ont été trouvés et que des parties de tambour et de clairons ont été ajoutées. Alors, elle a été répétée clandestinement et elle sera créée le 25 avril 1945 pour la nuit des Alliés à l'Opéra de Paris en présence du général de Gaulle.
Je voudrais bien savoir comment on peut répéter ça clandestinement. Moi, j'imagine les musiciens dans une cave qui faisaient semblant de jouer de la musique. Bon, et ben voilà, la clandestinité musicale,
Une petite nouvelle, Serge, si vous permettez, le 3, 4, 5 juillet à Albertville, le Festival international de musique militaire, et le 5 à Valoris, la musique des équipages de la flotte de Toulon. Et bien évidemment, le 14 juillet à Paris, le défilé militaire des forces d'intervention interarmées, avec musique.
Et ben on y sera.
Et si vous allez, à Amina, en Finlande.
Pour aller à Albertville, vous passez par Amina.
Festival international de musique militaire.
Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller jusqu'à Amina juste pour ça. Hein, bon. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé ? Il s'en fout, monsieur l'abbé, lui, la musique militaire à lui.
Pourtant, je suis une famille de militaires.
Ben oui, mais apparemment, vous avez rompu la tradition. En oh, quoique.
Pas tout à fait, parce que nous voulons restaurer à Riomont notre fanfare. Nous avons toujours nos tambours et le chœur montjoie à Saint-Denis vient souvent nous aider une fois par mois cette année, le chœur montjoie à Saint-Denis.
Ça, c'est bien, ça. Ouais. Et donc, c'est pour les punis, quoi.
Pas du tout. Ils veulent tous jouer du tambour et de la trompette. Et j'espère qu'on va ressusciter notre fanfare qui existait dans les années 60 à 65 et qui défilait dans Liévin, aux côtés de la fanfare de Liévin.
Surtout que Liévin, c'était une grande ville minière et les mineurs étaient connus pour avoir des fanfares magnifiques.
Absolument. Absolument.
Alors, quelques questions d'auditeurs, quelques remarques d'auditeurs. Un auditeur demande si Monsieur Thibault de la Fédération CGT des Cheminots va faire une déclaration de repentance avant de remplacer Vianney. Ce serait une bonne idée. Un auditeur dit, d'après vous, Gustave Eiffel n'avait pas construit la tour. Pouvez-vous donner quelques précisions à ce sujet? Oui, un jour, je ferai une émission sur l'imposture Eiffel. Tiens, voilà, je garde le sujet. En réalité, Eiffel a piqué les plans de deux de ses collaborateurs qui avaient bien travaillé et tout, puis il leur a dit c'est très très bien, on va signer tout ça ensemble, et puis après il leur a dit oh puis non finalement c'est plus simple si je signe tout seul, ça fera moins d'histoire. Mais je vous raconterai tout ça, c'est une belle histoire l'histoire Eiffel. À partir de la phrase célèbre du maréchal Pétain français, vous avez la mémoire courte, il faudrait peut-être ajouter dans la perspective du palimpseste français, vous avez aujourd'hui la perception des phénomènes plus courte encore. Ça c'est bien vrai. Vous venez d'employer le terme fripouille pour Gustave Eiffel. Moi, non, j'ai pas dit ça. Venant de lui, on pouvait en effet s'attendre à un sale tour. C'est amusant, ça. Il y a un auditeur qui nous envoie un poème qui n'a rien à voir avec le sujet, mais il est trop joli. Alors je le lis, ça s'appelle « Oracle au désespoir ». Alors, c'est quatre vers, hein, c'est pas long. C'est un quatrain, donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Moi qui pensais trouver un devin sans pareil, j'appelais l'autre jour le docteur Mamadou, réputé le plus grand de tous les marabouts, mais voilà qu'il me dit, qui est à l'appareil? C'est rigolo comme ça. Ben voilà, c'est tout, je pense. Chaque année a eu sa cuvée de résistants, comme les vieux vins, cuvée 40, cuvée 45, cuvée 46. Que pense Monsieur Figueras de la cuvée 98? N'est-elle pas un peu imbuvable? Oui, ça je crois. Mais il est parti, Figueras. Il peut pas nous dire ce qu'il pense de la cuvée résistant 98. Vous oubliez de rappeler pendant l'occupation, nous avons froid et faim. Nous n'avons rien pour nous vêtir. Nous étions bombardés. Et c'est à tout cela qu'il fallait résister. Rappeler ces choses aux boulimiques d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Peut-on en savoir plus sur les exactions des communistes en Dordogne et en Limousin? Oh, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus là-dessus, mais... On peut lire, par exemple, si on veut être sûr que les choses ne sont pas exagérées, il faut lire Amouroux. Hein? Amouroux est un historien extrêmement honnête et qui n'exagère pas. Il est honnête et prudent. Et là, dans les deux derniers tomes de l'histoire des Français sous l'occupation d'Amouroux, enfin en l'occurrence pas sous l'occupation, c'est les deux derniers tomes qui concernent la libération et l'épuration. Il y a quelques détails sur le comportement des milices communistes dans le sud-ouest qui sont assez terrifiants. N'oublions pas que pendant les deux ans où la zone libre a duré, la police et la gendarmerie de Vichy ont arrêté 1200 espions allemands, dont 59 ont été condamnés à mort. L'armistice n'était pas la fin de la guerre. Oui, c'est tout à fait vrai. Je suis en désaccord avec Serge de Beketch lorsqu'il dit qu'il était facile d'être résistant. Bah, écoutez, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit exactement le contraire. Il faut écouter, monsieur, avant de dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai dit le contraire. J'ai dit que si les jeunes croient qu'à l'époque c'était facile d'être résistant, aussi facile d'être résistant aux Allemands que c'est facile aujourd'hui d'être résistant au Front National, c'est pas étonnant qu'ils croient qu'ils sont résistants. Voilà, c'est ça. En juin 40, De Gaulle est parti en Angleterre. Ça, c'est plein d'informations. Ah oui, dans l'avion du général anglais Stilwell, sur ordre de Paul Reynaud, il devait revenir quelques jours plus tard par le même avion pour rendre compte à Paul Reynaud, mais il n'y avait pas de place dans l'avion, c'est ainsi qu'il est resté à Londres. Oui, ça c'est, on peut raconter l'histoire comme ça, effectivement, c'est amusant. S'il y avait une place dans l'avion, il rentrait. Hein, voilà. Ouf, Marcus le Sauvageon de Lens n'avait pas sur lui un trac du Front National. Ça c'est vrai. Bravo aux Norvégiens, aux Chiliens, zéro pointé pour Maître Collard et carton rouge aux voyous de l'Atlas à Château-Renard dans le 13 qui ont incendié un poste de police et tagué une église parce qu'ils voulaient une mosquée. Ah donc c'est pas des hooligans, j'ai tout mélangé alors, voilà. Donc, monsieur l'abbé, un point rapide sur Riomont, alors pour les auditeurs, Qu'est-ce que Riomont ?
Riomont, c'est un village d'enfants qui se trouve dans l'Artois, dans le Pas-de-Calais, à la limite de la zone minière, sur un village, une colline historique qui se trouve face à Vimy et Lorette. Et ce petit village d'enfants a été fondé par le père Revet, qui fut un grand éducateur, et aussi un fondateur d'ordre religieux, parce qu'il a fondé la Sainte-Croix de Riomont. Et cette implantation, cette bastide, ce fortin, était d'abord tenu par les Gaulois, puis les Mérovingiens, et puis maintenant, c'est un village scout aussi, parce que la pédagogie Riomont, c'est le scoutisme, une école qui fonctionne depuis maintenant 6 ans, que j'ai fondé, voyant la décadence des écoles à l'extérieur, et surtout sur le plan moral, et qui fonctionne en 6e, 5e, 4e, 3e, une école technique du bois qui prépare au CAP d'ébénistes, et aussi une action sur les milieux les plus défavorisés dans nos cités, dans nos corons des mines, où les enfants sont dans la rue, et nous pouvons faire une sorte de catéchisme dans la rue quand c'est possible, parce que mes frères sont très peu nombreux. Nous sommes 7, 4 prêtres et 3 frères. Bon, c'est aussi beaucoup d'autres choses.
Oui, c'est interminable à raconter. Il y a un mémorial scout qui est une merveille, il y a une grande tradition.
C'est aussi notre grande réponse aux scouts de France qui nous ont attaqués, comme s'ils nous ont attaqués en disant qu'on voulait faire de la récupération, parce qu'on voulait récupérer les morts scouts de France pour faire une sorte de manipulation idéologique au profit de l'extrême droite, dont Riomont serait l'incarnation.
Vous avez vu la tête des dirigeants actuels des scouts de France ?
Mais non, parce que je ne les connais pas.
Bah, restez-en là, alors, si vous voulez mon avis.
Alors,
si vous les voyez, vous auriez tout de suite compris la coupure.
Ils ont fait une mise en garde qui a paru dans toute la France, dans tous les diocèses, tous les commissaires de province, les commissaires nationaux.
Les bien nommés.
Voilà, ils ont reçu une circulaire. Et il y a même un appel à la délation, c'est-à-dire tous ceux qui seront en contact avec Riomont, eh bien, il faudrait les dénoncer, parce qu'un scout de France ne peut pas être en contact avec nous. Il y a un appel à la délation.
Ils vont être tondus, alors. Les gens qui ont fréquenté Riomont vont être tondus.
Je sais pas, mais toujours est-il que notre réponse, c'est le mémorial magnifique qui est édifié. On y travaille tous les jours avec des plaques et surtout un hôtel où des messes sont dites pour tous ces garçons qui sont morts pour la France. Non, les scouts de France n'ont pas voulu s'occuper parce que ils nous reprochent d'avoir fait ce mémorial. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait ce mémorial? Puisque moi-même j'étais scout de France, j'étais louveteau scout de France, et je vis l'idéal que j'ai vécu quand j'étais tout petit, quand j'étais en Allemagne, à Trèves, que j'ai fait ma promesse de louveteau. Pour moi, je continue exactement comme les scouts de France étaient autrefois, avant cette crise épouvantable de 64, où on est passé avec la méthode Pioneer Rangers. Alors, nous sommes fiers de faire ce mémorial pour que tous ces garçons soient exaltés, qu'on les montre comme des véritables chefs, en particulier ceux qui sont morts en Indochine et en Algérie, dont les scouts de France semblent avoir honte aujourd'hui.
Mais je peux vous dire que les anciens scouts, bah vous le savez d'ailleurs, il n'y a pas d'anciens scouts, mais les scouts, eux, ont honte de ce que sont devenus les scouts de France.
Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui sont chez les scouts de France, bien sûr.
Les parents qui ont voulu, enfin,
chez les scouts mais de France, ils ne savent pas, avec la désinformation.
Non, mais
oui, bien sûr.
On ne peut pas dire ça. On n'a pas le droit de dire les parents ne savent pas. On n'envoie pas ses enfants dans des groupes si on ne sait pas. On se renseigne. Voilà. Donc, les gens qui envoient leurs enfants aux scouts de France, ils savent ce qu'ils font.
Mais comme les médias ne connaissent que des scouts de France, et quand ils parlent des autres scoutistes, ce sont des néo-nazis, évidemment, ils écoutent la télévision, ils écoutent la radio. C'est vrai, les parents qui m'écoutent devraient faire attention de savoir où ils mettent leurs enfants et de faire un peu une enquête sur les chefs, les cheftaines.
Ils n'ont qu'à regarder comment ils sont habillés. Quand les gamins rentrent de camp, ils voient bien comment ils sont habillés, leurs enfants. Est-ce qu'ils ressemblent à quelque chose? Vous avez vu comment ils sont habillés, les scouts de France, maintenant?
Et moi, j'ai porté la chemise rouge, Serge de Bekech.
Ça m'étonne pas, tiens.
Vous voyez? En 64, parce que j'ai vu la réforme par l'intérieur, je rêvais d'avoir une chemise kaki, et puis on m'a mis une chemise rouge au Sable d'Olonne. Et j'ai vu la dégradation de ma troupe, j'ai vu comment ça s'est passé. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé un jour à un commissaire national des scouts de France, qui ne connaissait absolument pas la réforme, j'ai pu lui raconter ce que j'ai vécu pendant 6 mois. Alors, il était étonné.
Le plus beau mémorial que vous ayez fait, en tout cas, c'est le mémorial vivant de tous les élèves, de tous les enfants de Riomont qui sont sortis, qui sont maintenant en train de devenir des adultes. et que vous avez remis en d'équerre et en ligne droite dans la vie. Et ça, c'est quand même le mémorial des scouts morts, il est beau, mais le mémorial des scouts vivants, il est encore plus beau. Et je voudrais que vous nous disiez comment vous faites, quelle est la, comment on dit maintenant, quelle est la pédagogie de Riaumont?
La pédagogie est simple, c'est le scoutisme, c'est-à-dire donner des responsabilités à l'enfant, l'encadrer, lui donner la loi, les principes et les vertus. Quand il a tout ce cadre, eh bien, qu'on lui apprend à vivre une chevalerie, c'est-à-dire à bien comprendre les notions de bien et de mal, parce que le gros problème est là, c'est qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Alors, c'est pas en discutant pendant 2 heures avec un enfant, je crois qu'il a besoin qu'on lui dise carrément les choses, hein, avec beaucoup d'amour, bien sûr, et particulièrement quand il est révolté, qu'il se sente aimé par nous, et puis dans cette mesure-là, si on a conquis son cœur, alors au bout d'un certain temps, même s'il fait des fautes, même s'il retombe, même s'il casse, même s'il nous font des grosses bêtises, il y a un moment où, bien sûr, c'est pas la haine qui l'emporte, c'est l'amour qui l'emporte, sur l'identité française, bien sûr, sur l'histoire française, sur tout ce qui fait la valeur de notre pays et qui est complètement occulté aujourd'hui, parce que je me bats actuellement, et c'est vrai, nous sommes à contre-courant de beaucoup de choses, mais il est sûr que quand on donne tout d'un bloc, comme nos anciens l'ont fait, eh bien ça marche, et même pour ces enfants qui sont des enfants issus des milieux immigrés, des enfants qui sont là, mais vraiment parce qu'ils sont là devant nous, eh bien on arrive quand même à en faire des garçons formidables et qui aiment la France, qui chantent les chants scouts alors qu'ils sont venus, ils ne connaissaient absolument rien. C'est vrai, quand on reçoit des anciens qui sanglote sur la tombe du père Revet, eh bien, moi aussi, je pleure parce que c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir.
Pour ça, vous êtes grassement subventionné, j'imagine, pour vous occuper d'enfants dont personne ne veut et pour les empêcher de devenir des,
nous n'avons aucun
des
don.
Jeunes délinquants.
Nous avons pris notre liberté en 1980 parce que la DAS et le ministère de la Justice nous ont attaqués de façon la plus basse, hein. Ce petit juge gauchiste de Béthune, des gens de la DAS qui ont aucun cœur, on a pris notre liberté. Et bien depuis ce temps-là, c'est vrai, nous vivons uniquement des dons. Et c'est beau parce que, en fin de compte, on préfère encore avoir des petites sommes qui arrivent avec beaucoup de cœur que des grandes sommes. J'en parlais hier à quelqu'un, quand je pense que certaines organisations ont des legs, des dons énormes, 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 et que nous... Je regrette pas d'avoir fait cette journée de Versailles l'année dernière, car grâce à un organisme de pieds noirs qui s'appelle Organica, nous avons pu cette année faire des travaux incroyables dans notre école. Et vous savez que cette école, j'avais peur qu'elle ferme, parce que, au point de vue sécurité, nous n'avions pas ce qu'il faut. Et grâce à...
Oui, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est qu'on vous donne pas d'argent pour faire l'école, on vous donne absolument aucune subvention, mais les flics d'État viennent chez vous quand même pour vérifier que vous respectez les lois.
Ils ne viennent pas, mais ils disent qu'ils vont venir. Nous bénéficions du courage du père Revet. Parce que on se dit, mais si on attaque Riaumont, on va avoir des histoires. Parce que sur le plan national, maintenant, Riaumont est connu. Et que, bien sûr, il nous faut être fort. Si on est faible, on sera écrasé. Et on bénéficie encore actuellement de ce courage de ce petit village d'Astérix qui a voulu lutter et qui a remporté la victoire, en fin de compte. Le père Revet a remporté la victoire. Il est mort épuisé, mais il a remporté la victoire. Alors, je bénéficie encore de cela. Et j'espère que nous pourrons continuer encore à former ces enfants. Et puis, Riaumont grandit. Bien sûr, nous avons beaucoup de monde. J'ai déposé il y a 4 jours un permis de construire pour une nouvelle église. Vous savez que c'est très difficile maintenant de construire une église. On peut facilement construire une mosquée. On n'a pas de problème pour changer un plan d'occupation des sols dans notre région quand il s'agit d'une mosquée. J'aurais dû, parce que j'ai pas eu assez de culot, faire un permis de construire en mettant mosquée de Riaumont. Peut-être que le poste aurait été, mais bien sûr c'est pour rire. Mais nous espérons.
Vous leur faisiez le coup de Sainte-Sophie à l'envers, mettez une croix sur la mosquée, puis c'est fini.
Voilà. Et surtout que, bon, c'est vrai que les minarets sont très très hauts. On aurait fait le minaret le plus haut possible. Eh bien, j'espère que cette église, eh bien, un jour sera construite. Nous construisons pavé après pavé, et surtout avec la prière de tous nos amis.
En plus, vous construisez en pavé, ce qui quand même.
Oui.
C'est pas de la briquette.
Bien avant mai 68, nous avons été les premiers récupérateurs de pavés dans le Nord-Pas-de-Calais.
Si on veut vous aider pour la rentrée prochaine, vous allez me dire que vous avez besoin d'argent.
C'est-à-dire qu'on n'ose plus, demander de l'argent, parce que d'abord, je remercie d'abord tous ceux qui ont déjà donné, et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais on lui en a envoyé, pourquoi il en veut encore? Parce que les vacances arrivent et que généralement, juillet, août, septembre, eh bien, nos dons sont complètement ralentis. On n'a presque plus rien. Et puis, ça tombe. Il y a aussi, nous aussi, nous sommes imposés. Nous aussi, nous avons un certain nombre de choses qui tombent, comme dans chaque famille tous les jours. Mais là, c'est une famille nombreuse, très, très, très nombreuse. Et il est sûr que ceux qui m'écoutent, s'ils peuvent envoyer quelque chose, même aussi petit soit-il, pour le village d'enfants, nous serons très, très heureux pour passer le cap des vacances. Mais déjà, merci à tous ceux qui pensent à nous, qui prient surtout pour nous, pour nos enfants. Il y a des conversions étonnantes. Il y a cette muraille de prières fantastique. Et je crois que c'est ça aussi la force de Riomont. C'est cette confrérie qu'on vient de faire, des amis de Riomont qui veulent entrer un petit peu comme dans un tiers ordre et qui est une sorte de poumon spirituel pour notre institut, et où il y aura, j'espère, beaucoup, beaucoup de charité dans notre famille. Malgré tout ce qui se passe, les divisions, je crois aussi que Riomont va être une passerelle de charité dans la tradition.
Est-ce que vous nous donnez une adresse où on peut vous envoyer des aides, pas des pavés, parce que là, vous en avez assez, mais des...
Oui, l'adresse est le village d'enfants de Riomont, 62 801 Liévin Cedex. Et puis, on peut nous adresser des chèques postaux, par exemple, à notre compte. Par exemple, à mon compte personnel, 3100-04F Lille.
Là.
C'est pas la peine,
Ça sera sur le Minitel 3615 du Libre Journal, et puis on vous en téléphone.
Voilà.
Un numéro de téléphone, ça sera plus simple quand même.
03 21 28 32 09.
03 21 28 32 09.
Évidemment, quand il y a un leg, c'est exceptionnel, parce que un leg nous permet de tenir et de voir l'avenir, parce que chaque mois, c'est vraiment un acte de foi.
Et dans un an, c'est la grande feu de la Saint-Jean.
En juin 99, nous aurons les feux de la Saint-Jean. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui préparent et qui viennent aussi, surtout à ce son et lumière sur le Mont Saint-Michel. On vient de recevoir des Philippines un archange Saint-Michel en papier mâché qui doit dominer à 26 ou 27 mètres, parce qu'on fait le Mont Saint-Michel 40 mètres sur 30 mètres de haut, et ça va être fabuleux. Et ce Saint-Michel a été confectionné aux Philippines par des catholiques philippins.
En papier mâché,
ils ont fait un moule, on leur a donné des photos de Saint-Michel, pour ça ils sont extraordinaires, on leur a donné des photos, et ils ont fabriqué un Saint-Michel, ils ont fait un moule qui fait presque 2 mètres de hauteur, mais magnifique, un Saint-Michel qu'on pourra hisser donc tout en haut de notre Mont Saint-Michel, qui comme vous le savez, c'est aussi le symbole de la résistance, de la fidélité, de la persévérance.
Et puis des parachutistes.
Et des parachutistes, nous évoquerons aussi les Flammes de Penanster, qui scout de Riomont, parachutiste. J'espère avoir une délégation du 9e RCP à Riomont pour ce jour-là.
Merci mon père. À bientôt, vous reviendrez nous voir à la rentrée pour nous dire si votre appel a été entendu.
Nous partons en Vendée, au parc Soubise.
Ça va encore leur faire du bien.
Au mois de juillet.
Tiens, si vous les faites frotter au chouan. Un auditeur nous dit en 46 ou 47, les grands incendies qui ont dévoré la forêt landaise ont mobilisé les scouts de France pour aider les pompiers. Il y a eu plusieurs scouts qui ont laissé la vie, le saviez-vous? Bien sûr, mais les remarques qui étaient faites tout à l'heure sur les scouts de France, ça concernait les scouts de France d'après la réforme, pas d'avant, puisque un autre auditeur nous dit, j'ai plus de 70 ans, je suis ancien scout de France, inscrit au Front National, et je suis aussi fier d'avoir été scout que d'être aujourd'hui inscrit au Front National et de défendre mes idées. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les scouts de France sont depuis la nuit des temps ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont mal tourné il y a à peu près une trentaine d'années, comme l'Église.
Faut pas oublier que cette réforme a été voulue, et ce mémorial, il est aussi fait pour tous les prêtres qui sont morts de chagrin, qui ont été littéralement expulsés, démissionnés parce qu'ils ne voulaient pas prendre la nouvelle méthode, pour tous les chefs scouts qui ont été débarqués pendant la réforme, au cours de la réforme, mais manu militari, sans égard. Nous travaillons à Riomont par fidélité aussi à ceux qui sont battus jusqu'au bout pour empêcher cette réforme d'arriver.
Merci mon père. Une auditrice nous fait très judicieusement remarquer que les hooligans dont on parlait tout à l'heure, on a une preuve de plus que ce sont des imbéciles. Parce qu'ils ont mis tout ce temps à entendre l'appel que Trottmann avait lancé à manifester contre Le Pen à Strasbourg, quand elle avait appelé les jeunes Allemands à venir manifester. Alors, le temps que ça traverse leur crâne épais et que ça chemine dans leur cervelle gluante, oh, ils ont gombri, mais ils arrivent avec 8 mois de retard. Erreur, catastrophe, colossale finesse. C'est dommage. Donc c'est Mme Trottmann qui les a fait venir, ces gens. Mais ce qui est curieux, c'est que quand ils ont foutu le feu, quand ils ont cassé les magasins, quand ils ont tapé sur les flics à Strasbourg, on n'a pas entendu dire que c'était des hooligans d'extrême droite qui foutaient le souk là-bas. Alors là, c'était des jeunes républicains, démocrates, qui venaient protester. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles, vous voyez ? Moi, c'est vraiment un sentiment que j'éprouve de plus en plus souvent. Et ça me vexe. Voilà.
Je voudrais dire un mot sur ce gendarme qui est de 43 ans, qui est entre la vie et la mort, qui est dans le coma. Il faut savoir qu'il était entre le stade et la gare. Or, il y avait énormément de gardes mobiles au stade, énormément à la gare. Mais sur le parcours, par contre, qui fait même pas un kilomètre, il y avait pratiquement personne. C'est donc, sur le plan militaire, une erreur grave d'avoir laissé tous ces jeunes débouler avec pratiquement un garde mobile qui était seul. Et j'ai écrit tout à l'heure, avant de venir ici, à Madame Nivelle pour lui dire que ce matin, nous avons célébré une messe pour son mari, que tous les enfants de Riomont, tous les scouts de Riomont priaient pour lui.
C'est vrai et que c'est votre pays, c'est là.
À 3 kilomètres de chez nous, c'est arrivé à 3 kilomètres de chez nous.
À l'invitation de Jacques Chirac, le dictateur syrien Hafez el-Assad doit venir en juillet à Paris. Ce soir, grande manifestation de protestation avec Chrétienté et Solidarité de Bernard Anthony à 19h, c'est-à-dire dans en ce moment même, métro École Militaire. Si vous voulez aller les rejoindre, vous serez les bienvenus. Voilà. Mais on n'est pas obligé de... Si on manifeste contre tous les dictateurs que M. Chirac reçoit, on va y passer notre vie. Encore que... Si M. Benjamin Netanyahou venait à Paris, on ferait la même chose. Hein. Obligé, bien sûr. Lui aussi, il occupe le Liban. Y aura-t-il des représentants de Riomont dimanche à la fête de Radio Courtoisie ?
Oui, alors je viendrai spécialement l'après-midi à la fête de Radio Courtoisie. Pour terminer, parce que je vais partir, je voudrais parler du livre de Louis Fontaine, qui va paraître sans doute en octobre, et j'espère qu'il m'écoute, un livre magnifique sur le scoutisme, qui va remettre les pendules à l'heure. Je crois que ce sera le premier livre de combat pour les scouts qui n'ont pas accepté la réforme et qui veulent continuer dans la tradition catholique et scout.
Alors un auditeur... Au Père Argouache, les Philippins sont assez remarquables, effectivement, et particulièrement cet évêque conciliaire qui vient de se convertir à la foi catholique, Monseigneur Lazo. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des conversions de cet ordre qui se produisaient. On écoute un peu de musique spéciale.
Dimanche 28 juin, fête de la courtoisie. Au palais de la mutualité, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres, dimanche 28 juin de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est toujours que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants accompagnant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 28 juin, fête de la courtoisie, palais de la mutualité, entrée 150 francs, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Réflexion d'auditeur. Pour les Français qui n'auraient pas encore compris qu'on est dans un état bolchevique, je conseille de regarder les affiches qui figurent dans les quais de la gare SNCF pour célébrer le foot à travers la marque Nick. Oui, alors ce qui est rigolo, si vous voulez, c'est que les gens de droite disent que c'est des affiches staliniennes et les staliniens disent que c'est des affiches fascistes. En fait, c'est des affiches, ce sont des affiches de style mussolino-stalinien. Donc chacun y trouve son compte ou son mécompte. Vous les avez vues, Pierre Sidos, ces affiches. Elles sont d'ailleurs superbes. Super. Elles sont d'une esthétique qui, moi, me réjouit. Oui, mais enfin, chacun ses goûts. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'est pas obligé d'aimer ça.
C'est Marinetti,
Bataille,
c'est ça,
le courant futuriste.
C'est le courant futuriste, absolument. C'est une des grandes inventions. Bon. Est-il vrai que Gustave Eiffel a inventé le port d'Artel? C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se dit depuis. J'ai toujours entendu dire ça depuis toujours. Dimanche soir sur Lumière 101, on a parlé de l'allemand comme du Bosch. Pourquoi donne-t-on le dimanche à cette radio? Est-ce que la grippe va porter plainte contre pour germanophobie? Si personne ne le fait, moi je le ferai, dit un auditeur. Monsieur, portez plainte si vous voulez, mais est-ce qu'on pourrait pas nous lâcher un petit peu les baskets? Est-ce qu'on pourrait pas arrêter cette espèce de terrorisme permanent qui fait que quand on dit arabe, vous avez 100 types qui vous tombent sur le poing. Je vais porter plainte. Vous avez dit arabe. Alors après on dit juif. Vous avez dit juif. On dit Bosch. Oui, ben c'est du langage courant. Moi aussi je dis les Bosch parce que c'est rigolo. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'amis que j'adore, monsieur et madame Suc, parce que je disais toujours les Bosch. Et un jour, madame Suc, qui est une ravissante dame blonde, qui est allemande, qui est française, mais d'origine allemande, est venue me voir avec son petit accent. Elle m'a dit, monsieur Tevekech, vous n'aimez pas les Bosch, mais je connais une Bosch qui vous aime beaucoup. Voilà, bon, ben, c'est adorable. Voilà. On ne peut pas passer son temps à se faire des procès parce qu'on emploie des mots interdits et tout. Laissez-nous vivre un peu, lâchez-nous. Oh là là. Tous ces flics qui passent leur temps à écouter pour savoir s'il n'y a pas un moyen, une occasion de faire un petit peu de fric sur le dos du pauvre journaliste qui parle et qui n'en peut mettre. Donc, on dit Bosch, on dit espingouin, on dit rital, on dit roast beef, on dit melon, on dit crouya même. Voilà, crouya. Il paraît que crouya, c'est une injure. Ben, moi, je suis désolé, c'est un mot arabe qui veut dire frère. Donc quand on dit à un arabe crouya, ça peut vouloir dire frère. C'est pas forcément une injure. Et d'ailleurs, il y a un papier aujourd'hui, enfin cette semaine, dans je ne sais quelle torche-fure, qui raconte un voyage de jeunes beurs en Irak. Et le gars dit que les jeunes beurs, quand ils croisaient des Irakiens et qu'ils leur parlaient, ils disaient « Crouya, alors Crouya, comment vas-tu ?» Alors eux, ils ont le droit et pas nous. Oh là là, il y en a marre. Une radio libre se doit de passer tous les messages et pas de n'en passer aucun. J'entends politiquement incorrect les fauchetons et les collabos au poteau. Oh bah oui, pourquoi pas. Pauvres collabos, ça fait longtemps qu'ils sont passés au poteau. Pour les Français qui n'auraient pas encore compris, oui ça je l'ai déjà dit, pardon. Alors ça, je tourne en... Vous, non, ça c'est pour la bière Argouache, c'est trop tard, il est parti. Le père Argouache, il est parti. Voilà, Pierre Sidos.
Oui.
Il y a 40 ans, vous avez lancé un journal qui a été un événement dans le... Il y a 40 ans, c'était donc en 58.
En 58, hein, c'est ça.
58, il faudrait pouvoir rappeler aux jeunes générations oui, ce qu'était l'ambiance, mais ça risque d'être un peu long. En tout cas, vous avez lancé un journal qui avait fait un raffut du tonnerre et qui a bouleversé la vie de beaucoup, beaucoup de jeunes nationalistes ou de jeunes gens qui ne savaient pas encore qu'ils allaient être nationalistes. Et c'est ça s'appelait Jeune Nation.
Oui.
Comment ça s'est passé, ça?
Ça s'est passé, il y a une liaison à faire. Monsieur Figueras, qui lui, a combattu les armes à la main, les Allemands, il n'a pas attendu le 32 août, comme certains, où seulement 250 fonctionnaires de police, sur les 14 000 fonctionnaires de police que comptait la préfecture à ce moment-là, pour envisager quelque chose. Et le mémorial des scouts de France portera le nom de mon frère Jean, qui est tombé à l'âge de 20 ans, qui était chef de patrouille à la 5e Pasteur à La Rochelle, en défendant, avec deux Sénégalais d'ailleurs, l'entrée du village de Bougainval près de Chartres. Et donc, vous voyez, je crois très sincèrement qu'il fallait les empêcher de rentrer plutôt que de vouloir qu'ils partent.
Pierre, tout à l'heure, je vous coupe un instant, parce que pendant que Figueras parlait, un auditeur très probablement mal intentionné avait envoyé un message à Pierre Sidos en disant, à André Figueras, en lui disant, pouvez-vous nous parler de ce Sidos qui a été fusillé à la Libération? Alors, j'ai pas posé la question tout à l'heure, mais le fait que vous évoquiez votre frère Jean m'amène à vous demander, parce que tous les auditeurs vous connaissent pas forcément, à dresser un peu le panthéon ou le monument aux morts de la famille Sidos.
Eh bien, il est à La Rochelle. Il y a mon père, il y a mon frère Jean qui est tombé en 40. Il y a mon frère Henri, c'est-à-dire qu'il y a là en Légion d'honneur, en médaille militaire, peut-être sur la tombe du cimetière en question, le plus grand nombre. Et les Rochelais n'ont pas cru. Alors mon père était haut fonctionnaire du gouvernement du Maréchal, au ministère de l'Intérieur. Il figure sous le numéro 26 000 et quelques au mémorial de Verdun.
il avait 6 enfants, la Légion d'honneur, à titre militaire, la Croix de guerre, et effectivement, le gros reproche qui lui a été fait dans le simulacre de procès, c'est d'avoir toujours été anticommuniste. Il y a même un témoin qui dit, oui, avant-guerre, nous ne pouvions pas organiser une réunion sans que François Sidos, au nom des jeunesses patriotes, organise une réunion au même endroit après. Autrement dit, mon père a été victime d'une vindicte politique, et précisons même que ma germère, qui est donc médaillée de la famille française et qui avait perdu son fils aîné, on lui a volé son alliance à ce moment-là. Alors que ce monsieur garde ses critiques pour lui, et puis qu'il en fasse autant et que ce que nous avons fait dans la famille.
Voilà, je voulais quand même vous donner la possibilité de rappeler ça, parce que, étant donné les tombereaux d'ordures qui ont été déversés sur vous depuis des années et des années, vous finissez par apparaître comme une espèce de monstre, de personnage, de film d'horreur, littéralement, coupable de tous les crimes, pratiquement à vous seul. Vous êtes responsable, en tout cas, ou héritier, et responsable, et héritier des co-responsables de tout ce qui s'est passé en France de mal depuis le début du siècle, disons.
Oui, sans doute, avant même ma naissance.
Les inventaires, le chemin des dames. Alors, c'était bien que vous puissiez...
Non, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, voilà. Que l'on m'oppose seulement à un article où il y a l'insulte contre quiconque, que l'on m'oppose seulement quelque chose que des militants de l'œuvre française ont pu commettre. Non, il n'y a aucun élément, quoi.
Alors, je disais donc 40 ans, jeune nation.
C'est très important. Nous sommes en 58. Et deux ans auparavant, aux élections qui avaient eu lieu, le Parti gaulliste n'avait obtenu en tout et pour tout, sur tout le territoire français, que 600 000 voix. Et donc, nous sommes deux ans après, en 1958, paraît un sondage dans le journal François, et à la question « Pensez-vous que le général de Gaulle puisse revenir aux affaires ?» 6% « Oui ». J'ai bien dit « avril 58 ».
Oui.
Or, il m'avait été donné d'assister notamment à une conférence qu'il avait produite au Vélodrome d'hiver. Et cet immense vaisseau, qui comportait 12 500 places, c'était à 5 heures du soir, on a commencé, les gaullistes ont commencé à éteindre tout, il y avait 500 à 600 personnes seulement, j'ai bien dit, De Gaulle s'exprimant. Il était vêtu de noir, il n'y avait pas de tribune, et là il a fait un exposé, ça se situe, ce dont je vous parle, en 54, je dis bien, exactement comme s'ils étaient aux affaires, y compris pour traiter des problèmes internationaux, y compris pour traiter des problèmes de l'Algérie. Et il avait effectivement dit, à ce moment-là, et ensuite ça a été rapporté par certains de ses visiteurs, que son intention était de rompre les liens qui unissaient la province d'Algérie, où était né mon père, d'ailleurs, je précise, et la France. Il l'avait dit, il l'avait fait savoir, et s'était exprimé. Mais, donc, arrive le 13 mai, qui était un mardi, et j'avais été interviewé par Radio Télé Luxembourg, ah non, c'était pas encore la télé, Radio Luxembourg, le dimanche 11 mai, qui était le jour de la fête de Jeanne d'Arc, en disant, attendez-vous à ce qu'il y ait des événements importants. Et toujours est-il, oui, ça s'est produit le 13 mai, et il n'était pas question de De Gaulle, ça je puis vous l'assurer, que personne n'en parlait. Et quand il a fait sa conférence de presse, et le restant, et les forces qu'il avait derrière lui, dès ce moment-là, nous nous sommes dit, mais il va mettre sa politique en application concernant l'Algérie. Alors là, nous n'avons pas été crus, alors il y a peut-être des gens qui, à ce moment-là, m'ont traité de tous les noms déjà, c'est possible. Et tandis que lui a dit à nos compatriotes, je prends le pouvoir, je vais en Algérie, le 6 juin, était à Alger, et soyez tranquille, on verra ça à la rentrée. C'est fou, comme quand on dit à des gens, on verra ça à la rentrée, comme quoi ils partent en vacances et qu'ils sont satisfaits. Alors on dit, c'est pas possible, je ne suis pas du tout journaliste professionnel, je dis, il faut faire quelque chose. Et alors, je vais voir Monsieur Jacquemart, Noël, qui était directeur de l'écho de la presse et de la publicité, qui était un patriote, comme était d'ailleurs le directeur à ce moment-là du Parisien Libéré. Je lui dis, je vais lancer un journal. Il me dit, vous n'y pensez pas. Au mois de juillet, lancer un journal. Mais c'est invraisemblable. D'ailleurs, moi-même, je ne pourrais pas vous imprimer, mais l'imprimerie est fermée. Alors, nous préparons la chose, nous constituons une société. Le 5 juillet, paraît le premier numéro de Jeune Nation, c'est-à-dire il y aura exactement 40 ans. Où dès ce moment-là, on déclare, voilà ce qui va se produire, voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, notre insatisfaction est totale. Je vous ai fait tenir le numéro 1 et les numéros suivants. Il paraissait un samedi sur deux, c'est-à-dire c'est un bimensuel, et ça a très bien marché, puisque le 14 juillet, il a été vendu sur les Champs-Élysées. Moi-même, je ne voulais pas le croire quand on me l'a rapporté, mais les gens, uniquement au nom et à la réputation, il a été vendu 600 exemplaires. Évidemment, certains, quand ils en ont pris connaissance, ont dû se dire, mais qu'est-ce qui leur arrive, hein? Bon, eh bien, il nous arrivait que nous étions convaincus que les hommes sont comme le vin, ils sont bons au départ, ils bonifient en vieillissant, et que si politiquement ils sont mauvais, notoirement mauvais, ben ils aigrissent en vieillissant, ce qui s'est passé avec la politique menée en Algérie par Charles de Gaulle. Alors, on évoquait toujours, mais il a dit Algérie française, ça c'était à Mostaganem, mais le journal Le Monde a publié un communiqué dès ce moment-là, dès juin 58, en indiquant les propos attribués au général de Gaulle, etc., n'avaient pas été prononcés.
Il faut que vous parliez bien dans le micro, je crois qu'on a un problème, voilà.
Oui, alors, je crois que les gens sont partis en vacances, ensuite de quoi, il y a eu le fameux référendum auquel nous avons dit de voter non, mais alors là, ça a créé le scandale, quoi, hein, parce qu'il y avait les communistes qui votaient non, mais c'était pas dans ce sens-là. Alors, nous avons fait une campagne sur le non national à référendum, auquel M. Coston, Pierre-Antoine Cousteau, Fauché, Jacques Isorni, Lèbre, etc., mais nous étions le mouton noir, même de la droite. Quand on dit que la droite actuelle est singulière, je peux vous assurer qu'elle était déjà comme ça, hein. Elle était convaincue ou à se laisser convaincre de certaines choses. Alors, c'était un journal assez important, qui était vendu dans les kiosques, avec vente militante, mais le gros de la vente était dans des endroits qui ont disparu désormais dans les grandes villes. C'était ces espèces de petites guitounes qui étaient tenues par des dames d'âge ou des messieurs, et qui ressemblaient à une espèce de tente de camping, et où les gens vendaient eux-mêmes, hein. Ils avaient les journaux des NMPP, mais ils vendaient eux-mêmes. Et pour dire l'évolution tout de même de la mentalité, alors que nous avions des opposants, jamais aucun de ces petits kiosques n'a été insulté, jamais il n'a été les personnes ont été molestées, jamais aucun journal n'a été volé. Pourtant, nous étions en guerre en Algérie. Les mœurs politiques sur le plan de la violence ont évolué d'une façon incroyable, moi qui ai vécu cette époque, et on en est à un point où on ne s'imagine pas ce qu'étaient les libertés à ce moment-là. Alors, il y avait Dominique Venner parmi les principaux rédacteurs, Hubert Saint-Julien, Lambert, Jacques Ménière, Henri Coston, Jean Malardier.
Hubert Saint-Julien, il faut rappeler en deux mots.
Oui, c'est celui qui a donné son héritage à Jean-Marie Le Pen. Voilà. Jean-André Fauché, Jacques Plancard-Assac.
Jean-André Fauché, c'est amusant de le voir là. Faut...
Ah, ben il écrivait, bien sûr. Il n'avait pas encore...
Grand chambellan de la Grande Loge de France.
Oui, mais après.
Grand chancelier, je ne sais pas exactement.
Oui, grand chancelier des rites, etc. Mais après. Remarquez, avant, il avait été secrétaire du Parti Populaire Français à Limoges pendant la guerre, vous savez. Mais je lui ai confié 1000 fois ma liberté quand j'étais clandestin pendant 2 ans et demi, et jamais il n'en était autre. Et puis il y avait le général Rimbruno qui écrivait dedans, et qui avait été le chef d'état-major de Gaulle pendant la guerre. Donc il l'avait connu et vu de près, et le général Bruno, et puis il avait écrit
beaucoup. Qui explique pourquoi il était anti-gaulliste, probablement.
Vraiment. Et alors, il y avait là une équipe, ou des collaborations extérieures, mais sans horaire, et même sans salaire, quoi. C'était une chose tout à fait extraordinaire. Et je voyais une dédicace de Paul Gut, de son livre Le Séraphin couronné en 61, et sa dédicace disait « À l'équipe de Jeunes Nations avec ma reconnaissance fidèle ». Bon. Alors ce journal, il a marqué parce qu'il y avait une tribune libre. Et dans cette tribune libre, où un courrier des lecteurs s'exprimait, des gens dont ensuite on parlera. Il y en a un qui dit ceci, « Je suis étudiant à Lyon, j'ai 16 ans, la lecture de votre journal m'a fait chaud au cœur. Que de fois ne les ai-je pas entendus ces mêmes pots y terminer. Quelle que soit votre réponse, sachez que d'ores et déjà, je m'efforce de servir de mon mieux l'idéal que je me suis fixé, être français avant tout, partout, toujours, signé Pierre-Napoléon Vial, Lyon. » Il s'agit bien évidemment du professeur Vial, et comme lui répète à sa société qu'il a appartenu et qu'il était diffuseur du journal Jeune Nation, je cite son nom, mais pour beaucoup d'autres, je ne le ferai pas, parce qu'ils sont devenus directeurs de maisons d'édition, directeurs de publications très importantes, mensuelles et autres, chanteurs, enfin dans tous les domaines.
Mais c'est d'ailleurs extraordinaire, le vivier de jeunes nations a donné des produits de grande qualité. Mais... à tout point de vue, vous avez des hauts fonctionnaires, vous avez des soldats. C'est vraiment très étonnant. Hein.
Très étonnant, avec beaucoup de conviction.
Et qui ne s'en cache pas. D'ailleurs, ça aussi, c'est une chose curieuse, parce que il y a des gens qui ont beaucoup évolué. Et quand ils sont en situation, quand ils sont un peu à l'aise avec des gens qui savent proches de leurs idées, enfin de leurs idées de jeunesse, d'un seul coup, le gars vous dit, mais moi j'étais à Jeune Nation.
Oui, voilà, diffuseur du journal. Et alors, évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et notamment au gouvernement, parce que l'on a été les premiers même à révéler les contacts que M. Pompidou avait, sur ordre de Charles de Gaulle d'ailleurs, eu avec le FLN, avec une concession supérieure à ce qui avait pu être fait antérieurement. Enfin, on fonçait, littéralement. Alors, les saisies ne se comptaient plus. D'ailleurs, dans le dictionnaire de la politique de Coston, il dit « les saisies ne se comptaient plus ».
Le recordman de...
Ah oui, vraiment. Et alors, la règle juridique était de saisir deux exemplaires pour pouvoir instrumenter. Non, ils saisissaient tout. Et alors, pour dire tout de même l'évolution, c'est que couramment, dans les imprimeries, les gens étaient libertaires et d'extrême-gauche. Mais quand ils entendaient que la police devait venir, ils nous cachaient nos journaux et nous les remettaient après. Ça, ça a été courant, hein, et même les affiches annonçant le journal. Alors, ils ont trouvé la solution, c'est-à-dire qu'aux barricades d'Alger, alors qu'ensuite il n'a pas été question du journal, mais ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi-même, contre Jean Malardier, contre Dominique Vénère. Alors il y a quelqu'un qui était très courageux, qui rentrait d'Algérie, qui avait été lieutenant, qui s'appelait Jacques Méniel, et qui était directeur de la publicité de la maison Monsanto-Boutois, qui a dit, moi je vais le remplacer. Ben, le malheureux, ils l'ont mis dans un camp de concentration pendant une semaine. Ça n'a rien empêché à sa carrière, j'en parle parce que désormais il est à la retraite. Il est devenu directeur de la publicité de Michelin pour toute la France et ensuite pour le monde entier. Oui. Autrement dit, la qualité l'emportait, bien sûr. Alors, il y avait également le fait que mon père étant né en Algérie, mon frère y étant tombé comme soldat, j'ai demandé la possibilité de m'y rendre en Algérie en tant que directeur de publication.
Ça, c'est une aventure extraordinaire parce que, d'abord, encore une fois, il faudrait expliquer aux jeunes Français d'aujourd'hui qu'en 1959, pour aller en Algérie, il fallait demander l'autorisation du gouvernement pour aller dans les départements d'Algérie.
Alors, c'était accordé en général, mais je vais vous faire lire ce que m'a répondu le préfet de police d'alors, qui était Monsieur Papon.
Oui, voilà. Alors, c'est une lettre, donc, le préfet de police, du 6 juillet 1959. Monsieur, par lettre du 25 juin, vous êtes étonné de ne pas avoir obtenu plus tôt de réponse à la suite de la demande d'autorisation d'entrée en Algérie que vous avez présentée. Le délai nécessité par l'instruction de votre dossier était justifié par l'obligation qui m'est faite de consulter la délégation générale du gouvernement à Alger. Cette procédure est maintenant terminée. J'ai le regret de vous faire connaître que l'autorisation sollicitée ne peut vous être accordée. Veuillez agréer, blablabla, signé Maurice Papon. Ça, c'est une façon de répondre au moment du procès Papon. Plusieurs fois, j'ai eu des messages d'auditeurs me disant « Mais vous n'avez pas l'air d'aimer Papon. Pourquoi n'aimez-vous pas Papon ?» Et j'avais répondu parce que Papon me paraît la caricature du fonctionnaire aux ordres. Et je suis absolument certain, j'en étais certain à l'époque, j'en reste certain maintenant, que si les communistes avaient pris le pouvoir en France, Papon aurait été un préfet communiste impeccable. Il a été préfet de Vichy, il a été préfet de Gaulle, il a été préfet des socialistes, il a été préfet de tout ce qui lui donnait un poste de préfet. Il y aurait eu les communistes, il serait devenu préfet communiste. Voilà. On a la preuve, donc en 59, d'un préfet aux ordres...
En août, qui interdit à un directeur de journal de se rendre en Algérie, où son père est né, à Mouzaïaville, près d'Alger, et où son frère est tombé en bataille à l'âge de 24 ans, mon frère. Bien. Alors, on a beaucoup parlé, effectivement, je crois que c'est dans Faits et Documents qui vient de sortir, les questions, cette publication mythique. Mais elle n'est pas seulement mythique en ce sens que dans le livre La presse française de 1830 à 1960 de Noël Jacquemart et de Jean-André Fauché, il en est question sur dans 6 pages. Ensuite, il y a énormément de travaux qui ont été faits en mémoire ou en thèse. Et j'en citais 2. Il y a un mémoire de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, de M. Michel Fichet, qui a été membre d'ailleurs ensuite du comité central du RPR, et c'était et qui traitait de l'idée de nation en France au XXe siècle, où il parle longuement du journal Jeune Nation. Il y a une maîtrise de M. Arnaud Desroulettes, qui est le petit-fils, qui traite de cette époque, en octobre 86, qui en parle beaucoup, et maintenant je vais en revenir encore à M. Papon. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les chevaux du pouvoir », avec comme sous-titre « le préfet de police du général de Gaulle ouvre ses dossiers 1958-1967, paru chez Plomb en janvier 88.
C'est curieux qu'il les ait pas ouverts un peu plus tôt.
Voilà. Les chevaux du pouvoir, il y a plus de 500 pages. Eh bien, il y a 28 pages qui sont consacrées au journal et aux diffuseurs de Jeune Nation. Et la page 117, il indique en début février 1959, je cite, « Je passe une matinée entière chez Michel Debray pour débattre de ce seul sujet. » C'est-à-dire que Michel Debray a passé une matinée entière avec le Premier ministre, M. Debray, pour discuter du journal. Et inutile de vous dire que ce n'était certainement pas pour en dire du bien. Et alors, il y a également, plus récemment, Dominique Vénère, dans son livre « Le cœur rebelle, guerre d'Algérie », qui dit ceci, c'est tout à fait remarquable, à la page 88. Il dit parmi ses diffuseurs, il y avait quelques militants dont on ne verra jamais nulle part ailleurs. Ils étaient pour la plupart des gens du vrai peuple, serruriers, employés, porteurs au Alf, fraiseurs chez Renault. À la différence des jeunes bourgeois, cela n'était pas du genre à tourner leur veste au premier coup de torchon. Fidèles, imperméables au découragement et au débauchage, ils iront toujours comme s'ils avaient vécu sans jamais se renier. Ils étaient portés par une sorte de mystique simple et indestructible. Ils étaient les prosélytes véhéments d'une pure religion de la patrie, admirables militants, grands inconnus de cette époque, durs, confiants, dévoués, leur courage et leur générosité étaient illimités.
On pourrait dire que c'est encore un portrait qui vaut, parce qu'aujourd'hui, à l'œuvre française, il y a le même genre de recrutement.
Le même esprit. Alors, il y a 5 ans de cela, il y a une équipe de jeunes hommes qui ont dit, mais ce titre a toute sa valeur. Il y a eu le fait du prince qui a fait arrêter les dirigeants, mais le titre existe, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse, et ces gens qui n'étaient pas nés à l'époque ont décidé de le faire reparaître, et donc il reparaît régulièrement depuis 5 ans, et eux-mêmes ont pris l'initiative de dire, eh bien, puisque ça sera le 40e anniversaire, puisque ce journal avait été fondé le 5 juillet 58, en souvenir du 5 juillet qui était le jour de la prise d'Alger en 1830. Et cette année, ça tombe un dimanche également, 5 juillet, c'est-à-dire que jour pour jour, ça fera 40 ans. Alors il a été décidé différentes choses, mais cette chose extraordinaire tout de même, parmi tout ce qui est prévu, c'est-à-dire de faire un recensement, et c'est pas si commode que cela, 40 ans après, de faire ça. Et il a été prié aux personnes qui ont été diffuseurs, rédacteurs, de reprendre contact s'ils ne peuvent pas le faire directement. Alors la presse nationale a été très bien, et vous en particulier, ils ont publié la chose. Il faut s'adresser à la boîte postale 1030, je veux dire comme les Espagnols, 1030, à Lyon, c'est-à-dire au 692 01, 69201, Lyon CEDEX 1, ou au téléphone 06 07 75 20 83, et là les personnes vous indiqueront quel est le programme, parce que dans le même temps ça nous permettra de faire le filtre par rapport à toutes les archives de l'époque, dont pas une feuille de papier n'est tombée, malgré toute la répression qui a duré plusieurs années, aux mains de la préfecture de police.
Ça, c'est quand même du joli travail. Ça.
Et il a été prévu un album, avec les photos notamment, parce que nous avions décidé, à partir de 1958, c'est qu'aucune photo de réunion ne paraîtrait dans la presse, et on allait même dans les agences de presse récupérer les photos. Et nous avons toutes les photos de cette époque, les manifestations sur les Champs-Élysées, les manifestations à Alger et tout. Alors, ça sera donc la suite de cette rencontre. Et je vais vous lire, parce qu'il y a quelqu'un qui, un colonel, qui nous écrit ceci. Ancien militant de Jeune Nation, 1957-1960, à 14 ans, à Louis-le-Grand, avec François Duprat, puis à la Fène en 60-61, à Saint-Louis, avant d'entrer à Saint-Cyr, et termine vive Jeune Nation.
C'est étonnant.
Alors voyez, c'est peut-être mythique, mais il est besoin d'avoir des références, et notamment, c'est des choses, on peut se regarder dans la glace quand on a fait ça. Alors la devise du nouveau Jeune Nation qui paraît régulièrement, c'est Saint-Père Fidélis, c'est-à-dire toujours fidèle. J'y ajoute tout simplement la mienne, Saint-Père idem, c'est-à-dire toujours identique.
Toujours le même. Merci Pierre Sidos, à bientôt. Alors, donc si vous avez été, chers auditeurs, distributeurs, vendeurs, adhérents, abonnés, lecteurs, sympathisants de Jeune Nation, vous envoyez un petit mot aux boîtes postales 1030 69201 Lyon CEDEX 01 et vous dites je voudrais participer à la grande réunion qui aura lieu.
Oui, à vrai dire, il y a plusieurs activités. Il y a notamment un repas important.
Un repas.
Et une chose extraordinaire, il sera présenté à cette occasion. Ça m'a stupéfait quand, voyageant à Vitrolles, j'ai découvert cela. Il y a un Algérois qui m'a dit, Monsieur Sidos, je vais vous faire voir quelque chose. J'ai tout laissé là-bas, mon mobilier. Il a été cherché dans une pièce le drapeau des diffuseurs de Jeune Nation à Alger. Et nous l'amenons à Paris justement pour faire voir cela aux hommes plus jeunes, pour comprendre qu'il ne faut jamais baisser les bras.
Merci Pierre Sidos. On va écouter un petit morceau de musique pour où on attend le... Oui, on va l'écouter tout de suite. Qu'est-ce que vous nous proposez, mon cher Philibert ?
Alors, c'est la marche du 1er régiment étranger de cavalerie.
Ah ben, ça s'impose.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech. Une émission du 24 juin 1998, rediffusée dimanche 3 janvier 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Nous continuons cette émission. J'ajoute que si vous voulez, vous pouvez utiliser le Minitel 3615 Libre Journal pour poser vos questions, faire vos commentaires, et puis aussi pour trouver toutes les précisions, les adresses, les noms d'auteurs, les noms de personnes reçues, les dates des réunions qui sont annoncées, enfin tout ce qui est annoncé dans l'émission, vous le retrouvez sur le Minitel 3615 Libre Journal. On va faire une petite incursion gymnastique, je sais pas, enfin un truc. On va faire de la gymnastique avec Monsieur Frolla. Bonjour Monsieur.
Bonjour Monsieur.
Alors Monsieur Frolla, vous m'avez invité un jour chez vous, m'avez envoyé un document. Alors comme je suis grand reporter dans l'âme, j'ai pas hésité à prendre le RER pour aller jusqu'à Pavillon-sous-Bois. Et je suis arrivé donc à Pavillon-sous-Bois après avoir traversé des territoires occupés longuement. Et là j'ai découvert dans un jardin un atelier, et dans cet atelier, j'ai découvert un truc qui s'appelle... Comment ça s'appelle d'ailleurs ?
Athletic Training. Ouais,
déjà,
au début, c'était pour dire entraînement d'athlète.
Voilà, c'est ça. On peut dire comme ça, c'est aussi bien. C'est un appareil d'entraînement d'athlète qui m'a abasourdi parce que... moi, j'aime bien les inventeurs un peu déjantés, comme ça. Or, vous êtes vraiment ce qu'on peut appeler un inventeur déjanté, et on peut employer ce mot-là, puisque à l'origine, vous êtes fabricant de bicyclettes,
ouais.
De vélos, comment préférez-vous qu'on dise ?
De cartes de bicyclette sur mesure.
Cartes de bicyclette sur mesure. Et à partir de là, vous avez mis au point un truc de fou. Alors, en réalité, c'est une bicyclette immobile, avec une roue dont le moyeu n'est pas au centre. En gros, c'est ça. Hein, on peut dire ça ? Puisque
oui.
C'est un excentrique.
Oui et non.
Mais vous êtes un inventeur d'excentrique. Un inventeur
excentrique. Ah oui, mais l'excentrique, tout le monde voit ça en quelqu'un d'excentrique, un petit peu barjot. Ouais. Non, je pense pas être barjot.
Non, vous n'êtes pas barjot, vous êtes un inventeur.
L'excentrique, c'est le contraire du concentrique. personne ne connaît la méthode excentrique.
Les concentriques, j'en connais beaucoup. Les excentriques aussi, moi.
Non, mais il faut... reconnaître que cette méthode excentrique est recherchée par le monde entier, tout le monde en parle, mais ils ne savent pas l'utiliser.
Et vous avez inventé ça.
Et moi, j'ai inventé la machine qui permet une musculation ou une rééducation en méthode excentrique, qui est de 3 à 4 fois supérieure et en résultat, et 3 à 4 fois plus rapide également. C'est-à-dire que si on compare l'appareil de gym, la T310, en 3 semaines de musculation, c'est-à-dire 15 séances d'une heure, vous aurez le même gain de force qu'en 3 mois de musculation traditionnelle, dite concentrique. En plus, sur la méthode excentrique, vous aurez non seulement travaillé la force, mais l'endurance, ce qui n'est pas le cas en méthode concentrique.
Alors, votre appareil, pour simplifier, c'est un appareil qui permet de faire de l'exercice, un peu comme la machine à ramer, ou le vélo d'appartement, ou je sais pas encore ce qu'on peut imaginer comme engin de mort. Mais le truc chez vous, c'est que on travaille, enfin il y a un des deux appareils sur lequel on travaille en position allongée sur le dos.
Oui, mais ça c'est le deuxième. Restons sur le premier. Voilà. Restons sur le premier.
Donc le premier, c'est-à-dire on est assis comme sur un vélo.
Voilà. Et selon cette méthode excentrique, on ne produit pas d'effort, on résiste à un effort. C'est-à-dire que ce moteur qui tourne et qui vous pousse sur les jambes, on essaye d'y résister. Bon, si on est capable de opposer 300 kilos de résistance, 310 kilos, puisque c'est la T310, la machine donnera 310 kilos de poussée. Si c'est quelqu'un qui oppose 25 kilos de résistance, la machine opposera que 25 kilos de poussée.
C'est-à-dire que ce que vous avez inventé, c'est un appareil de musculation qui, au contraire de tous les autres appareils de musculation, n'impose pas un effort supérieur à celui qu'on peut accomplir. Puisqu'on ne pose pas des fontes qui vont résister. On ne pose pas 100 kilos de fontes qu'il faut soulever.
Oui.
Mais on propose un exercice par réaction.
Oui, mais on peut, comme vous dites, faire le simulacre de lever une haltère et quand ça fait trop mal, ben on lâche et on ne reçoit pas l'haltère sur la tête.
Ouais, ce qui est bien commode pour les gens à droite.
Les barres sont fixes, voilà. Ouais. Et bon, on dit que pour étirer les muscles du dos, il faut se pendre à une échelle ou à tout ce qu'on veut. Mais combien de temps on peut rester pendu? Quelques secondes, voire une minute.
Bien sûr.
Tandis que là, la machine vous entraînant, vous avez des prises de main de toutes les parties de la machine, et vous pouvez vous laisser monter et descendre et tirer votre dos à chaque fois, et vous pouvez le faire 200, 300, 400 fois.
Alors, ça provoque aucune accélération du rythme cardiaque?
Absolument pas.
Ça provoque aucun essoufflement?
Absolument pas.
Et alors je l'ai essayé et c'est on a une très rapide sensation de d'élongation, de détente.
Mmh.
Et c'est assez impressionnant. C'est pour ça que j'ai voulu que vous veniez en parler, parce que la première raison, c'est parce que l'outil est intéressant en soi, mais ça, il faudrait aller le voir pour faudrait l'expérimenter.
Voilà, donc, cette première, pour être sincère, la première machine dont je parle, la T310, où on est suspendu et une résistance et tout. Et je l'avais faite pour le mal de dos également, puisque moi, je souffrais du mal de dos depuis 25 ans. Étant gamin, les brouettes de fumier à la ferme, il fallait se les faire.
Et vous n'aviez pas des clandestins sans papier pour porter les brouettes de fumier? Non, c'était pas organisé.
C'était pendant la guerre, on était clandestins nous-mêmes.
Il y avait des étrangers pendant la guerre, vous auriez pu leur demander de porter les brouettes.
Oui, il y avait des Polonais, c'est vrai.
Ah ben, il n'y avait pas que des Polonais,
ouais.
Enfin, c'est des points où vous étiez, mais
ouais.
Je crois que tout à l'heure, on a parlé de ça.
Et alors, c'est... J'ai un jour trouvé dans la rue un vieux vélo santé, il ne restait que les quatre pattes et un pédalier, et j'ai essayé bêtement de tenir un équilibre dessus, et à l'époque j'avais une usine de fabrication de cartes de vélo à Aulnay-sous-Bois, j'ai monté sur cette... le truc.
Je rigole parce que j'imagine le PDG de l'usine de cadres d'Ornette sous bois.
Et en m'accrochant à des cadres de vélo qui étaient suspendus, et en pédalant en suspension, je commençais à sentir mon dos qui cloque.
Hein, quand j'ai dit que vous étiez excentrique, je racontais pas n'importe quoi.
Exact. Ouais. Et bah, j'ai fait ça 10 minutes tous les matins, 8 jours avant que Pégo arrive. Et puis au bout de 8 jours, un mal de dos qui avait 25 ans a disparu, alors que je ne dormais plus tellement le dos me brûlait et tout. Et j'ai dit, bon, alors, au vu de ce résultat, j'ai dit, bah, faut faire une machine avec des bords pour se suspendre. Et c'est bien de pédaler comme ça, mais quand on fait pédaler sur un vélo santé quelqu'un qui a été opéré d'une hanche, par exemple, une patte va bien passer, mais l'autre, ça fait mal, là. Alors, j'ai pensé à motoriser l'appareil. J'ai donc mis un petit moteur réducteur qui tournait à 5-6 tours par minute. Et j'ai dit, il faut plus de force. Parce que je vais mettre les manivelles, non pas comme sur un vélo, mais en symétrique, les deux en même temps.
C'est ça.
Ce qui fait que, en tournant entraîné, la jambe valide assiste la jambe à rééduquer. Voilà.
Les deux jambes se plient en même temps et se déplient en même temps.
Voilà.
Et au lieu d'appuyer pour sur les pédales comme pour monter une côte, on exerce simplement une force de résistance. C'est le pédalier qui tourne.
Voilà.
Et en fait, c'est un peu comme si on descendait une pente sur un vélo à pignon fixe.
Exactement, monsieur.
Je suis intelligent quand même. Hein.
Oui, c'est super.
Même moi, là, je viens de m'étonner.
Oui, oui, oui. Et ce type de musculation permet de faire travailler tous les muscles. Tous les muscles qu'on appelle les remontants, les inducteurs,
ça, c'est la
agonistes et antagonistes.
La première raison pour laquelle je voulais que vous veniez, c'est pour nous expliquer que ça existe, c'est quand même intéressant.
Alors maintenant, si vous, oui, vous voulez sans doute aborder la machine que vous avez essayée, celle sur laquelle on est couché.
Voilà, alors expliquez en deux mots celle-là. Parce que
celle-là, l'autre qui était faite pour le dos, faisait du bon travail pour le dos. Mais il reste un problème très difficile, ce sont les vertèbres lombaires. Très difficile de trouver une technique pour les vertèbres lombaires. Et j'avais une amie de chez nous que j'avais connue par mégarde, puisque une personne s'occupant des bêtes m'avait demandé de garder sa chienne pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis cette personne souffrait du dos. Et les médecins ont décidé de la plâtrer. Elle a été plâtrée pendant 5 semaines. Et je vous dis pas, une fille qui fait 1m76, quand ils l'ont déplâtrée, c'était tout beau, hein. Alors, je dis, bon, bah, puisqu'on me parlait, je dis, bon, bah, écoute, vous allez venir tous les soirs, 1 quart d'heure, 20 minutes à la maison, comme c'est sur votre chemin, et puis vous allez remettre ce dos en place. Ce qui a été fait en une quinzaine de séances. Mais il y avait toujours cette espèce de sensation de sciatique qui lui faisait mal, jusqu'au doigt de pied. Et j'ai donc emmené cette personne chez un ami qui est un bon kiné ostéo, qui lui a fait faire des mouvements. J'ai dit, mais ces mouvements-là, mais c'est impensable. Une personne sur 50 peut faire ces mouvements-là. Bon, elle est grande, elle est quand même souple. Je dis, mais il n'y a pas de machine pour assister la personne. Ah, du nom. Je dis, bon, ben, dans 3 semaines, il y en a une. Et j'ai donc conçu cette machine avec un bout de ferraille et tout, un moteur, moteur-adducteur. Ouais, ça va très vite de prendre le bébé. Et j'ai voulu être le premier à l'essayer. Bon, donc cette grande personne m'a fixé dessus, comme je vous ai installé, et j'avais au-dessus de la fesse gauche ce que les kinés appellent le déplacement sacro-iliaque, qui me faisait mal depuis 5 ans, que j'avais provoqué en déplaçant une machine de plus de 200 kilos. Ça avait craqué là-dedans, et j'ai vu, disons une vingtaine de fois, quelques kinés différents qui ne m'ont pas enlevé ce truc. 30 secondes sur cette machine, j'ai dit, arrêtez, descendez-moi tout de suite. Je suis relevé, je ramassais les petits cailloux par terre, sans aucune douleur.
Alors voilà, ça c'est la première chose. Vous avez donc inventé deux machines, ce sont des machines d'assistance à la kiné, au traitement du mal de dos, etc. Vous prétendez pas être médecin, vous prétendez pas être exercer illégalement la médecine. Et donc vous avez, à ce moment-là, essayé de faire, en quelque sorte, homologuer vos machines. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Je crois que c'est impossible. D'abord, on nous dit qu'il n'y a plus d'homologation. Effectivement, si les kinés s'en servent, homologués ou non, à partir du moment où la machine est sans danger, je pense que l'homologation n'existe plus. Mais je pense que le véritable danger de cette machine, c'est qu'elle peut remplacer quelqu'un.
L'auditeur nous dit...
L'ennui est là.
Voilà. Quel est le prix de votre invention ? Si ça marche, les kinés vont être au chômage.
C'est exact.
Mais c'est embêtant, ça, pour les kinés. Qu'est-ce que vous en faites, les kinés ?
C'est exact. Ils m'ont rien fait, mais j'ai fait une quarantaine de ces machines. Oh, j'en ai peut-être vendu 3 ou 4. Toutes les autres, je les ai données.
À des kinés.
Pour les tester, comme ils disent. Mmh. Ils ne m'ont jamais... Ils m'auraient seulement donné 10% de ce qu'ils gagnaient avec, parce que le kiné qui avouait gagner le moins avec cette machine, c'était 25 000 francs par mois, tout en faisant autre chose à côté.
Oui, parce que quand la personne est sur la machine, on n'a pas besoin d'être à côté d'elle.
Absolument.
On travaille toute seule.
Absolument.
Non, mais alors, à quel problème vous heurtez-vous? Puisque cette machine marche, elle rapporte de l'argent, les kinés devraient se battre pour l'acheter, ou en quoi vous êtes bloqué?
Ah ben... Pourquoi je suis bloqué? Je suis bloqué que faut que je vive avec 3500 francs par mois et que je n'ai pas d'argent pour fabriquer les machines. Pas évident.
Et vous n'avez pas trouvé d'industriel qui accepte de vous assister?
Les industriels, je sais pas. Cette méthode n'est pas connue. Cette méthode
mais
n'est
quand,
pas connue.
Quand vous avez eu la visite d'une sommité, on ne va pas dire qui c'est, mais...
Lui ne prêche que par la méthode excentrique. Voilà. La méthode excentrique, c'est la panacée universelle.
Oui.
Alors, mais à la fin, on marque quand même, mais comme tout médicament, il y a des effets secondaires. Je me demande comment ce bonhomme connaît des effets secondaires alors qu'il ne sait pas pratiquer la chose en elle-même.
Mais en fait, il a fait un rapport, mais il a mis certaines conditions pour terminer ce rapport.
Ah ben oui, ça rentre pas dans la rééducation, ou alors... Ouais. Non, c'est pas ça, bon, ben, quand on est...
En gros, vous avez manqué de générosité, quoi.
Je crois que c'est ouais. ça.
Vous voulez pas le dire, mais moi je le dis.
Les Américains, eux, sont plus généreux ouais. avec une machine qui vaut 4 fois le prix de la mienne, et qui fait 4 fois moins de travail. Mais...
Voilà, ouais. c'est à quoi je voulais en venir, parce que c'est l'éternel problème. Je vais recevoir prochainement un médecin qui aussi a mis au point des techniques de traitement tout à fait non orthodoxes. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un médecin essaye d'innover, il fait l'objet de la part du système.
Alors,
vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes inventeur d'un appareil qui peut assister
à la médecine. Ils ont très bien compris mon truc. Moi, j'ai reçu... De grosses associations de médecins, une réponse que je connais par cœur, notre association ainsi que nos partenaires sponsors ne sont pas intéressés par un tel type de machine malgré tous les avantages qu'elle apporte à la rééducation fonctionnelle.
Et la phrase importante.
C'est équivaudrait de dire à une belle fille, t'es belle mais je veux pas de toi.
Ouais. Mais c'est le mot important là-dedans, c'est nos et nos sponsors.
Voilà. Qui sont-ils là?
Voilà, merci. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Imaginez qu'un auditeur ait 15 millions de francs à investir dans une usine de fabrication de cartes de vélo qui ne roule pas. On peut peut-être s'adresser à vous. Alors, est-ce que vous voulez...
Non, qu'il voit Cyril Guimard.
Ah non, mais Cyril Guimard avait des vélos qui roulent, lui, quand même.
Ah oui, il avait promis d'en faire 1500, je crois qu'il en a fait 150. Il a quand même claqué 700 briques.
Est-ce que ça marche pour les douleurs arthrosiques, votre...
Ça marche pour tout, c'est étonnant. Ça marche pour les tendinites, d'une manière incroyable. Incroyable.
Alors, écoutez, est-ce que vous souhaitez donner vos coordonnées directement à l'antenne, ou est-ce que vous voulez prendre...
Je veux bien. Je n'ai rien à cacher.
Eh ben, c'est très bien.
Je n'ai rien à cacher. Je ne pense qu'au bonheur de mes concitoyens.
Donnez un numéro de téléphone, parce que les adresses, vous les donnerez au téléphone.
Oui.
Enfin, l'adresse... Donc...
Alors, donc, c'est le 01
oui.
48 49 25 78.
Voilà, monsieur Frelat, F-R-E-L-A-T.
Oui.
01 48 49 25 78.
Et
fabricant de l'AT-310.
Voilà.
Qui n'est pas un Airbus, hein.
Qui n'est pas un Airbus.
C'est moins dangereux que l'Airbus. Ça va moins loin, moins vite, mais c'est moins dangereux. Je suis médecin, je souhaiterais connaître l'adresse de votre ingénieur. Pouvez-vous donner le nom d'un kiné qui a testé cette machine sur Paris, si possible? Non, on peut pas donner le nom de kiné à l'antenne. Il y en a, vous nous l'avez dit, 40. Si vous appelez Monsieur Frelat, il vous aidera à trouver. Mais à l'antenne, c'est pas possible, parce que ces kinés auraient des ennuis avec leur ordre.
Oui, et c'est une pas part. La fin, et je suis fâché avec pas mal d'entre eux.
Mais vous pouvez toujours donner les coordonnées, ceux avec qui vous n'êtes pas fâché. Est-ce que cette machine peut redresser les problèmes mécanique au niveau dorsal, bah oui, c'est ce que vous avez.
Bah oui, c'était le bureau.
Ayant été de longues années entre les mains des kinés, je peux vous dire qu'ils gagnent bien leur vie. Oui, ça, c'est, moi, en tant que frère de kiné, j'ai pas l'impression que c'est un métier où on gagne des milliers et des cents. Il y a d'autres métiers qui rapportent beaucoup plus d'argent que ça, je peux vous le dire.
Certainement, certainement.
Voilà. Alors, on a beaucoup de remerciements pour le, ça n'a rien à voir avec vous, puisque c'est pour la marche. Encore que vous, vous pouvez aider à la marche, mais en l'occurrence, c'est la marche du 1er régiment étranger qui a beaucoup plu. Voilà. J'ai vu chez vous d'ailleurs une belle photo en militaire qui montre que vous avez fait votre devoir.
Oui, je pense.
Merci Monsieur Frolla. 01 48 49 25 78 et vous verrez Monsieur Frolla est un homme gentil, sympathique, un, on dirait un personnage d'un de film de vous savez des films
d'horreur.
Non, il est bête. Les films d'avant-guerre Monsieur Chaminade, vous voyez ce que je veux dire, et ces oui. films des années 40 où oui. il y a le vous devriez venir avec une casquette, une manche et vous en avez
une,
ah, vous l'avez retiré pour l'émission.
J'en ai une, monsieur.
Merci Monsieur Frolla.
Personnage populaire. Voilà. Des films d'avant-guerre.
Et sa machine, c'est formidable.
Qui était joué par Carrette, par exemple.
Voilà, un personnage à la Carrette, tout à fait.
Allez, des bédouins. Hein.
C'est un compliment dans ma bouche.
À la suite de la défaite des joueurs du Cameroun à Yaoundé, on a fait la chasse aux blancs dans les rues et les supermarchés. Le football, c'est comme les échecs, il y a les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, nous dit cet auditeur qui ne manque pas d'humour. J'espère qu'il ne manque pas d'argent, parce que si on est poursuivi, je renverrai. Je vous en prie, monsieur, voilà, vous pouvez nous quitter. À bientôt.
Merci infiniment. Monsieur, bonsoir.
Merci à Serge Becquet, vous nous faites beaucoup de bien, vous nous redonnez courage. Ça, j'annonce ce message parce que je vais en lire un autre derrière. De Becquet a tombé le masque. J'ai bien connu, jeune nation, c'était un repère de fascistes et de racistes. Oh là là, quelle horreur. Et un auditeur nous dit, je signale que Semper Fidelis, qui était la devise de Jeune Nation, c'est le nom d'une loge de la Grande Loge Nationale de France qui est enregistrée sous le numéro 20. Alors on dit Semper Fidelis, numéro 20 à l'Orient de Paris. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. L'avez-vous fait exprès? Alors Pierre Sido, je peux pas vous répondre parce qu'il est parti. Mais je suis à peu près certain qu'il l'a pas fait exprès. Voiture brûlée sur le tournage des Savates du Bon Dieu. Dans la nuit du vendredi 5 à samedi 6 juin, 5 fausses voitures de police. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit, 5 fausses voitures de police, dont une fourgonnette utilisée pour le tournage Les Savates du Bon Dieu de Jean-Claude Brisson, ont été incendiées dans une cité HLM de Saint-Étienne. La police n'a pas pu déterminer si cet acte relevait de la méprise. C'est pas par méprise, ils ont foutu le feu à les voitures. Hein, c'est curieux, ils croyaient. Bon. Ou si les incendiaires voulaient protester contre la fin du tournage qui avait permis pendant 7 semaines à plusieurs jeunes du quartier de participer à la production. Mais c'est vrai, voilà, tiens une solution pour les jeunes. Il n'y a qu'à tourner des films dans les banlieues occupées. Hein, on tourne des films toute l'année, et puis comme ça, ils seront contents, ils ne mettront pas le feu aux voitures. Sauf, bien sûr, si le metteur en scène leur dit, maintenant, foutez le feu aux voitures. Et d'ailleurs, s'ils ne sont pas payés, à ce moment, ils se mettent en grève, et ils ne foutent pas le feu aux voitures. Donc le bon truc, c'est de les embaucher pour foutre le feu aux voitures et de pas les payer. Comme ça, ils mettent pas le feu aux voitures. Vous voyez l'astuce? Moi, j'ai comme donné le ministère de l'Intérieur, je pourrais que le problème de la délinquance des banlieues en deux coups les gros. Voilà. Bien. Ça, ça n'a rien à voir. J'ai un message qui est carrément diffamatoire. Je peux pas le lire. J'aurais des ennuis avec la personne visée. Monsieur Chaminade... Et vous êtes venu plusieurs fois à ce micro déjà, en tant que, alors je sais jamais, président, secrétaire général, animateur.
Non, mais je n'ai aucun titre, c'est facile de s'en souvenir.
En tant que rien du tout du marché Saint-Pierre, du marché moi, Georges Brassens.
On n'est pas dans le tissu, on est dans le livre ancien.
Du marché Georges Brassens.
Absolument.
Alors, le marché Georges Brassens, expliquez-nous.
Oui, il se contente pas du marché Georges Brassens, donc de temps en temps, il organise des manifestations ponctuelles.
Voilà, mais le marché Brassens quand même.
On peut en parler quand même.
En deux mots, rappelez ce que c'est, parce que ça vaut vraiment le coup.
Oui, rappelons que depuis 10 ans, ma foi, nous sommes dans la 11e année, le marché Brassens, qui a lieu toutes les fins de semaine, toute l'année, sans exception, réunit environ 70 à 80 libraires, en livres d'occasion et en livres anciens. Et c'est pratiquement le plus grand marché européen de ce style, surtout marché permanent, puisque la plupart du temps, ce sont des opérations, des marchés ponctuels qui n'ont lieu qu'une fois par an ou deux fois par an maximum.
Alors c'est un vrai marché, c'est-à-dire c'est dans une halle.
C'est les anciens abattoirs de Vaugirard, voilà. Rue Brancion, numéro 104. Donc ce sont les halles, c'est un élève de Baltard, hein, c'est pas Baltard lui-même qui les a construits, mais enfin c'est de la même époque, et ce sont des vraies halles. Alors ça a un inconvénient l'hiver, c'est qu'il fait un peu froid, parce que c'est la maison des courants d'air. Ça a un avantage l'été, parce qu'on est protégé du soleil, étant donné qu'il y a des toits. Et il y a surtout beaucoup de livres.
Il y a des bistrots sympathiques dans le coin.
Et il y a surtout des... Oui, oui, absolument. Il y a un très beau parc, donc le parc Brassens. Il y a des restaurants sympathiques. Je ne veux pas faire publicité, mais enfin, il y a un boulanger très connu qui est le boulanger Poilane.
Qui est juste
Et puis, il y a des cafés, des restaurants sympathiques. Ça, c'est, pendant tout le week-end, c'est un quartier qui vit, qui est mort pratiquement toute la semaine. Mais enfin, ça, après, là, si je brode là-dessus, je rentrerai dans les considérations politiques.
Qui ne sont pas de mise ici, on ne fait pas de voilà. politique dans
mais
cette
oui, j'avais remarqué, j'avais remarqué.
Et donc, en dehors du marché Saint-Pierre, non, marché, j'en veux pour ce marché Saint-Pierre, c'est marrant quand
c'est
même.
C'est drôle ça, c'est pas bon.
Je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai posé des rideaux hier.
Il vous revient.
Donc, en dehors du marché Brassens, qu'il faut aller voir, vraiment ça vaut le coup, c'est très divers, vous avez des spécialistes du livre très ancien, du livre...
De le tout, ça va jusqu'à la bande dessinée, en passant par le roman policier, le livre d'histoire...
Le livre de géographie...
Le livre pour enfants,
et de temps en temps, il y a une chose qui est organisée. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, parce que est-ce que vous faites partie des pour ou des contre? Je ne me souviens plus. C'est le poids.
Ah oui, je suis plutôt dans les contre.
Ah oui, d'accord.
Donc, on va glisser là-dessus. Bon, si vous glisse, permettez.
Enfin, je le dis quand même, parce que moi, je suis plutôt dans les pour, comme j'en profite.
Oui, vous avez raison, d'ailleurs. Non.
Voilà. Alors, donc de temps en temps, il est organisé au marché Brassens une vente de livres au poids. C'est-à-dire que les livres sont entassés, vous achetez, vous faites peser, vous payez combien, 30 francs le kilo?
Je crois que c'était 30 francs, oui, ces derniers temps.
Et d'ailleurs, on arrive à trouver des choses incroyables.
Je suis pas tellement contre, puisque je vais annoncer qu'il y en a une, je crois, le samedi et dimanche prochain.
Ça commence à quelle heure le matin? Parce que là, les bonnes affaires, on les fait très tôt.
Oui, ça commence à 7 heures. Si on veut vraiment arriver à l'ouverture, le samedi, 7 heures. Le dimanche, non, c'est 9h30.
Alors, c'est pas pour parler du Brassens que vous êtes venu, c'est pour parler de ce que vous organisez et qui n'a rien à voir avec le Brassens, encore qu'il s'agisse de livres. Oui. C'est ce marché de la bibliophilie à la Foire Saint-Germain.
Voilà. Dans le cadre, nous faisons la dernière semaine de la Foire Saint-Germain, qui a commencé avec les antiquaires, qui s'est poursuivie avec le marché de la poésie. Et nous sommes les derniers, les nouveaux-nés d'il y a 4 ans. Donc, nous faisons ce marché de la bibliophilie. Et chaque année, c'est la 4e année, nous faisons le samedi. J'allais dire le dernier samedi, mais c'est le premier aussi, puisque nous commençons un mardi, nous terminons un dimanche. Un colloque consacré à un sujet hautement contemporain, comme vous allez le voir, puisque nous allons parler des sociétés de bibliophiles. Alors, les années précédentes, nous avons parlé... On va faire rire un peu nos auditeurs. Les bibliophiles sont-ils des dinosaures? C'était la première année, je crois. Ouais. Voilà, alors, il y en a qui ont répondu oui, d'autres ont répondu avec des nuances. Les collectionneurs, qui sont-ils? Ça, c'était la deuxième année. La troisième année, c'était apparemment plus grand public. C'était sur les éditions populaires, puisque nous avons édité, car nous éditons de temps en autre, nous avons édité un manuel de la librairie d'occasion, il y a 3 ans, et l'an dernier, nous avons édité un ouvrage sur les éditions populaires. Alors, c'est un ouvrage très savant de bibliographie sur les éditions populaires, principalement du 19e siècle, puisque c'est un siècle très riche en la matière. Et alors, cette année, donc, le sujet, c'est les sociétés de bibliophiles. Pourquoi les sociétés de bibliophiles?
Les sociétés de bibliophiles, ça a été très à la mode au siècle dernier, au début de ce siècle aussi.
Même au milieu de ce siècle.
Oui, jusqu'aux années 50 à peu près. Hein.
Si on fait un rapide historique, la première, qui est la société qui existe toujours, des bibliophiles François, a été créée en 1820. En 1950, vous voyez, je fais un saut très très grand dans le temps, il y en avait une centaine de ces sociétés. Aujourd'hui, il y en a 12.
Ouais.
Enfin, que nous avons répertoriées. Il y a peut-être une 13e qui va se découvrir samedi, puisque nous avons invité donc samedi les responsables de certaines de ces sociétés. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. On va pouvoir les citer d'ailleurs. Je cherche le petit carton. Nous aurons les amis du livre contemporain, ce qui montre d'ailleurs que le bibliophile peut être aussi contemporain. Et ça, nous y tenons beaucoup, parce que... Eh ben oui, parce que sinon...
Il y a toujours un moment où il est contemporain, quand même.
Oui, par voie de conséquence, mais vous avez les pharmaciens bibliophiles, parce que je fais une parenthèse tout de suite, une incise, c'est que souvent, les bibliophiles se sont rassemblés sous l'égide d'une profession. Donc, vous avez eu les médecins, les pharmaciens...
Ça, c'est parce qu'ils sont subventionnés par les laboratoires.
Peut-être, c'est fort possible. La Société des bibliophiles François, donc, sera représentée également par son président, Monsieur De Broglie, en personne. Le Cercle du bibliophile ardennais, car nous avons aussi des sociétés bibliophiles locales, régionales, disons. Nous aurons d'ailleurs, dans cet ordre d'esprit, les bibliophiles comtois.
Mais pardon de vous couper, monsieur.
Mais vous en prie.
Vous nous avez pas dit ce que c'était qu'une société de bibliophiles.
Alors, je vais vous le dire.
On en parle, mais on
sait. Je vais essayer de vous le dire. Nos auditeurs découvriront encore plus, bien sûr, s'ils viennent samedi. Et moi-même, j'en apprendrai certainement beaucoup. Car ce sont des sociétés un petit peu secrètes, quand même. Ce sont des gens, qui se rassemblent parce qu'ils aiment le livre ancien, parce que ce sont des collectionneurs, parce que ce sont des bibliophiles, donc. Et qui, alors, pour quel but ils se rassemblent-ils, vous allez me dire? Jusqu'à présent, ils se rassemblaient, au départ, ils se sont rassemblés pour souvent éditer. Ce sont des éditeurs.
Ils rééditer
souvent des ouvrages. C'était le cas des bibliophiles François, des ouvrages épuisés, des ouvrages alors très pointus. On peut en citer quelques-uns si vous voulez, mais
c'est... Oui, on peut citer parce qu'il y a quand même des documents extraordinaires qui ont été réédités, notamment des recueils de chansons, des choses comme ça. Il y a des...
Oui, voilà par exemple des publications que la Société des bibliophiles François a rééditées. Alors vous avez les carrosses à 5 sols ou les omnibus du 17e siècle, qui avait été édité dans son temps par Didot. Je vais sauter les jeux de cartes tarot et les cartes numérotées du 14e au 18e siècle, vous voyez, qui avait été édité par les éditions Crapley, éditeur Crapley, qui est un éditeur très, très connu du 19e siècle. Donc, c'était vous avez le Ménagier de Paris, par exemple.
Le Ménagier de Paris, qui est un très, très bel ouvrage.
Qui est un très bel ouvrage, très classique. Et bon, c'est un petit peu la vocation de ces sociétés. Je me souviens que la Société des pharmaciens, bibliophiles, avait édité beaucoup de choses en son temps. Donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure.
Les médecins ont fait beaucoup, beaucoup
de médecins
très
également.
Belles choses.
Oui, de très, très belles choses. Donc c'est une vocation du bibliophile. Alors ce qu'on va peut-être poser comme question à ce colloque, c'est de savoir s'il ne peut pas y avoir une autre vocation, peut-être plus contemporaine, non pas seulement d'édition, ça c'est une très bonne chose, mais vous savez que la bibliophilie, nous le constatons, nous, depuis 10 ans, que nous œuvrons dans ce domaine, c'est qu'elle va plutôt en régressant par le nombre des personnes qui s'y intéressent, qu'en augmentant. Et notre souci, alors ce qui augmente par contre, c'est l'âge des bibliophiles, de toute évidence.
Il y a aussi je sais pas si l'âge augmente tellement, parce qu'en réalité, les bibliophiles ont toujours été des gens d'âge mûr, qui avaient un petit peu de bien.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On devient bibliophile, sur le tard.
Oui, c'est certain. Alors ce qui nous rassure un petit peu, c'est que par contre, les libraires,
Rajeunit,
si j'ose dire. Il y a beaucoup de jeunes libraires qui se lancent, grâce au marché Brassens.
Vous avez fait démarrer beaucoup de, vous avez donné le coup de pouce à beaucoup de jeunes qui pouvaient pas acheter un magasin, qui pouvaient pas s'installer, qui avaient trouvé cette solution
pour devenir à Brassens.
J'en connais beaucoup, des gens remarquables, des grands professionnels maintenant qui ont démarré.
Absolument, et qui maintenant ont boutique, qui font des catalogues.
Notamment ce grand jeune homme si sympathique qui est rue Condorcet, qui a son magasin rue qui a débuté avant ça.
Mais il y en a bien d'autres. Il y a par exemple Henri Vigne qui a son magasin rue Saint-Jacques et qui a débuté chez nous.
C'est une bonne école en tout cas.
Fourquier également, qui a un magasin rue Gay-Lussac, qui est aussi un très grand jeune homme, je crois qu'il fait 1m95, a débuté chez nous. Voilà. Donc, pour en revenir à ce colloque, j'ai donné à peu près... Si, j'ai pas donné... Alors, je vais donner, si vous permettez...
Je suis obligé de corriger, j'ai dit une chose méchante, qui est mal prise. Alors, les pharmaciens bibliophiles dont je fais partie ne reçoivent aucune subvention des laboratoires pharmaceutiques, dit cet auditeur. Alors, je retire mon assertion.
Et alors, ce colloque permettra aussi, de rectifier peut-être certains... cette légende de ce type. Nous aurons donc le président également du bibliophile, Raymond Rémois. Vous voyez que les régions sont quand même bien représentées entre les Ardennais, les Rémois. Nous aurons également, bon, Monsieur Galantaris, qui est un libraire expert très connu sur la place de Paris, l'ancien directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, qui est aussi très connu, Jean-Claude Garreta, qui viendra donner son point de vue. Et puis, alors, la présidente d'une société de bibliophilie qui est quand même particulière, puisqu'elle ne réunit que des femmes. C'est très à la mode en ce moment. On n'est pas encore dans le quota, puisqu'il n'y en a qu'une sur 12.
Mais les 101, ça s'appelle.
Les 101,
ça,
ouais. Absolument. Les 101. Ouais. Et nous aurons les bibliophiles de Guyenne qui font des choses admirables, ne serait-ce que leur revue. Ils ont une revue très très richement illustrée, très belle sur le livre ancien, qui paraît, je voudrais pas dire de bêtises, je crois deux fois par an, qui est semestriel donc, qui sera également représenté par son trésorier. Vous voyez, donc c'est un colloque qui va être intéressant.
Et on pourra voir des travaux, des résultats, des productions, si j'ose dire, ces sociétés, les montreront.
Oui, oui, bien sûr, elles apportent. Oui, j'espère quelques-uns de leurs ouvrages. Donc, on va préciser, si vous voulez bien,
les heures, les dates.
Les heures, les dates, les lieux. Mm-hmm. Alors, c'est samedi 27 juin, ce colloque. 27 juin, donc samedi qui vient, de 14h30 à 18h, là c'est peut-être un peu large, à mon avis ça se terminera vers 17h, dans la salle des mariages de la mairie du 6e arrondissement qui est sur la place Saint-Sulpice. Donc ce que je propose aux visiteurs, c'est d'aller au marché avant, par exemple, matin, en fin de matinée, puisque ça ouvre à 11h. Il peut déjeuner sur place, il y a un très bon restaurant périgourdin.
Oh oui.
Étant d'origine périgourdine, j'en fais la publicité par la même occasion. Et puis à 14h30, il traverse la rue Bonaparte, il se retrouve dans la mairie du 6e, salle des mariages, et il assiste au colloque.
Un auditeur demande pourquoi vous n'envisagez pas, pourquoi vous ne demandez pas à la mairie de Paris la possibilité d'ouvrir un troisième jour, les lendemains de fête, exemple lundi de Pâques ou de lundi de Pentecôte, ou quand il y a des ponts, le jeudi de l'Ascension, les choses comme ça, à Brassens, là.
Oui. Bien sûr, tout est faisable. Le problème, c'est qu'il faut le faire savoir, que nous n'avons pas de gros moyens, et qu'on a toujours eu peur que si on ouvrait un jour inhabituel, nous n'ayons peu de visiteurs.
Ça viendra, quand les gens sauront que vous ouvrez les jours de grandes fêtes.
Mais le problème, notre problème, c'est que nous, pauvres petits organisateurs, nous sommes des bénévoles. Nous sommes très peu nombreux. Nous ne sommes plus très jeunes non plus. Et ce qui fait que deux jours par semaine, on cherche du sang neuf. Alors si, par exemple, l'auditeur en question veut se présenter pour...
S'il veut venir faire partie du GIP...
Oui, il sera le bienvenu. Hein. C'est pas une boutade.
Le GIP, c'est le téléphone 01 45 32 12 75.
Voilà, c'est l'association qui gère le marché Brassens, qui gère le marché de la bibliophilie, et bien d'autres choses encore.
Je répète, alors vous demandez Monsieur Chaminade,
la personne qui répondra, peu importe, c'est
Monsieur Froment, oui, qui était devenu aussi déjà. Oui. 01 45 32 12 75. Absolument. Et vraiment, un dimanche matin, un samedi matin, si vous êtes parisien, faites un saut à Brassens, le métro c'est...
Porte devant,
ouais. Ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes.
On fait des affaires.
Voilà. Merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
À samedi, alors
de nous accueillir une nouvelle fois.
Vos livres sont pas, Monsieur Molinier, édités encore sous une forme bibliophilique.
Ah, je pense que ça restera comme ça.
Il faut que vous vous approchiez du micro. Non, pas du tout. Alors là, vous venez ce soir nous présenter une brochure que vous avez réalisée vous-même. Et qui s'appelle Brin d'Histoire. Qu'est-ce que c'est, Brin d'Histoire?
Eh bien, Brin d'Histoire, je ne suis absolument pas historien, mais il y a des faits historiques qui m'ont intéressé par la manière dont ils ont été déclenchés, ou bien par la manière dont on peut les rapprocher de certains événements actuels.
Vous êtes écrivain, vous êtes pratiquement caldoche, ou enfin d'adoption, vous avez vécu longtemps...
Eh bien, depuis que je suis reporter, depuis 1986, je vais deux fois par an en Nouvelle-Calédonie. Je n'y passe pas très longtemps, j'y passe deux semaines, trois semaines. Je m'intéresse beaucoup à ce pays que j'aime. Je déplore toujours de plus en plus l'action de tous nos gouvernements depuis la dernière guerre et qui ont eu tendance, quelle que soit leur couleur, à favoriser l'indépendance, une indépendance qui, j'espère, malgré tout encore, ne se fera pas.
Alors, c'est pas pour parler de la Nouvelle-Calédonie que vous êtes venu ce soir, c'est pour nous parler de jeudi de Brandisson, mais vous avez déjà publié, plusieurs fois, il n'y a pas très longtemps, vous avez publié une histoire très curieuse, très étrange, l'histoire d'un marin, Qui, ça m'avait beaucoup frappé, ce livre.
Le Revenant de Paramé.
Le Revenant de Paramé.
Ah, c'est un roman.
C'était un roman.
C'est un roman.
Un
oui.
roman étrange, parce qu'on avait l'impression que c'était presque un roman qui vous avait été dicté par l'au-delà.
Eh bien, c'est un, je me suis servi d'expériences personnelles. J'ai été dans la Marine nationale pendant 13 ans. J'ai été commandant de bord à l'UTA pendant 15 ans également. Maintenant, je suis reporter et ça me donne l'occasion de beaucoup voyager. Et j'ai parlé de choses qui, il y a un siècle et demi, presque deux siècles maintenant, comme ce qui est à l'époque où se passe mon roman, je parle de choses qui se sont produites à l'école à l'époque et qui se produisent encore maintenant, comme un cyclone dans l'océan Indien, ou bien le fait que de malheureux narfouda, de malheureux patrons de boutre, meurent quelquefois de déshydratation parce que le vent se met à manquer, qu'ils n'ont pas assez d'eau douce, et j'ai ainsi assisté à la mort d'un pauvre type qui est arrivé vraiment dans un état de santé épouvantable.
Et ce roman est très étrange. Il est on sent qu'il donne une impression d'authenticité extraordinaire parce que il est pas comme souvent les romans. Il ne finit ni bien ni mal ni de façon spectaculaire. On ne sait pas fabriquer. C'est on a l'impression d'un morceau de vie pof qui tombe comme ça et vous racontez. C'est très
bien. C'est un rêve.
Ah voilà.
Un rêve. Je le dis d'ailleurs. Je termine mon livre comme ça avec quelques petite fioriture, un rêve que j'ai eu et dans une atmosphère malouine, car si je suis un peu calédonien, je suis également un peu malouin et
alors Brin d'histoire, c'est tout à fait autre chose.
C'est une brochure. Il est possible d'ailleurs que par la suite j'ajoute encore quelques chapitres. En particulier, je viens d'en faire un que je vous le présenterai d'ailleurs en dehors de l'antenne, un chapitre sur les circonstances dans lesquelles la bataille de Navarino s'est déroulée et qui rappelle qui pourrait se rapprocher de l'influence qu'ont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays européens à intervenir dans tous les pays d'Europe centrale.
Ces brins d'histoire, vous les avez ramassés où? Vous les avez trouvés où?
Ah bien, j'ai quand même été faire quelques visites, par exemple au musée d'histoire de la Vincennes, au service historique de la Marine à Vincennes. Je m'en suis servi également en Angleterre, au British Maritime Museum de Greenwich. En Australie, à Brisbane, j'ai retrouvé des dessins effectués par les peintres qui étaient avec certains explorateurs.
Quelle est la période de l'histoire qui vous intéresse le plus, qui vous paraît la plus riche pour...
Eh bien, le premier chapitre de cette petite brochure parle de l'expédition de l'entreprise de Bougainville à la fin du XVIIIe siècle, de donner à la France, qui venait de perdre les Indes et le Canada, une nouvelle terre. Cette nouvelle terre, eh bien, c'était les îles Malouines, qui étaient inhabitées à l'époque, et sur laquelle il a installé les Acadiens, qui ne voulaient pas rester au Canada sous la coupe anglaise. Les îles Malouines ont été françaises pendant 3 ans.
Et puis les Anglais,
les Anglais ne sont intervenus qu'après, jusqu'à ce que Choiseul, ayant justement peur de la reprise des hostilités avec l'Angleterre, fasse cadeau de l'archipel aux Espagnols, pas aux Anglais quand même, aux Espagnols.
Les Malvinas à ce moment-là.
Ça, oui, les Malouines n'étaient inhabitées, mais quand même connues depuis déjà plus d'un siècle, car les chasseurs de baleines les s'y ravitaillaient en eau douce à l'embouchure des ruisseaux.
Mais il fallait avoir tué père et mère pour être là-bas, non?
Ah bien, les Acadiens que Bougainville a installés là-bas étaient extrêmement heureux et ils ont été navrés, aussi navrés que Bougainville lui-même, d'avoir acquitté cette île et de se retrouver sous l'influence espagnole.
C'est un peu, c'est curieux comme toute votre œuvre et tout votre travail d'écrivain semble marqué par une espèce de tristesse, une espèce d'amertume, de nostalgie, de voir l'Empire s'effilocher.
Actuellement, je trouve que je vois avec désespoir, je peux pas employer d'autres mots, l'état de la France qui est en train de se dissoudre. Se dissoudre d'une façon lamentable. Il y a eu des époques où la France était en très mauvaise position. Mais enfin, l'Empire, le premier Empire, disparaissant à Waterloo, ça avait quand même plus de gueule que la France disparaissant à Bruxelles et se dissolvant comme un morceau de sucre dans une tasse de café.
Ça, c'est moi qu'on peut dire. Un auditeur dit « J'ai été militaire en Nouvelle-Calédonie et mon rêve est de me retirer là-bas pour mes vieux jours. Est-ce une erreur ? Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ?»
Ah, c'est pas du tout une erreur. La Calédonie pourrait très bien accueillir des milliers et des milliers de personnes à condition que le gouvernement actuel, ne favorisant pas certaines factions, n'est-ce pas, décourage les gens d'y aller. Il y a par exemple en Calédonie une chose qui choque la plupart des gens qui y arrivent, c'est que lorsqu'on arrive là-bas, étant français, on montre sa carte d'identité, ça c'est normal puisqu'on est passé par un pays étranger, oui. Mais également qu'on vous exige un billet de retour. Oui. Autrement dit, on n'est plus sur un territoire français libre de circuler librement. C'est absolument scandaleux.
Enfin, c'est pas nouveau. Pierre Sidos nous racontait tout à l'heure qu'en 59, pour aller en Algérie, il fallait une autorisation du gouvernement.
Et alors, ce qui est malheureux, c'est que les Calédoniens s'en choquent un petit peu, mais enfin, ils sont tellement habitués à cette position que, ma foi, ça leur paraît quelque chose de triste, mais enfin, inévitable.
Vous serez dimanche avec nous.
J'espère bien.
À la mutualité.
J'espère bien, si les chemins de fer veulent bien marcher, s'il n'y a pas eu de tremblement de terre, si je n'ai pas quitté ma peau d'ici là.
Ah, puis la fin du monde n'est pas intervenue, évidemment, sauf fin du monde, là, bien entendu. Parce que là, on vous attend pas. Hein. Merci beaucoup, Bernard Molinier. Je rappelle le titre de votre brochure. Alors, à quelle adresse peut-on se la procurer? Parce qu'il y a plus chez vous.
Pour l'instant, il y a une librairie qui s'appelle Diffusion de la Pensée Française, Duquesne Diffusion.
Bien sûr, nos amis de Duquesne.
Diffusion, peut-être, je ne l'ai pas encore proposé, une librairie à Toulon qui s'appelle Antinéa.
Antinéa, oui.
Un peu sulfureuse d'ailleurs, mais enfin ça ne me déplaît pas.
Tant mieux, c'est la moindre des choses. Elle est même tellement sulfureuse que même le maire de Toulon a essayé de la faire fermer. Alors, c'est vous dire à quel point...
Je crois que Bacaletti et le Chevalier ont repris des bonnes relations.
Ah ben, alléluia. Voilà une bonne nouvelle. En tout cas, donc, on peut trouver votre livre dimanche à la vente, à la grande journée du livre de Radio Courtoisie, à la Mutualité, à partir de... Bon, tiens, écoutez, je vais laisser parler les gens qui savent mieux que moi.
Dimanche 28 juin, fête de la courtoisie. Au palais de la Mutualité, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres. Dimanche 28 juin, de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est toujours que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants accompagnant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 28 juin, fête de la Courtoisie, palais de la Mutualité, entrée 150 francs, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Je vous rappelle que la salle est plus grande et qu'elle est climatisée, c'est-à-dire que vous avez des chances de sortir avec une bonne angine ou une bonne sinusite. Parce que la clim, c'est l'effet que ça me fait. Enfin, l'année dernière, on étouffait. Cette fois-ci, on va Donc voilà, mais c'est ça la culture, c'est dur la culture. Joël Ménard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de Lumière dans la nuit. Alors, Lumière dans la nuit, il faut que je fasse un aveu à mes auditeurs, c'était une de mes lectures quand j'avais 10 ans, quoi, il y a 40 ans, pratiquement, enfin j'ai dû lire les premiers numéros de Lumière dans la nuit, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Et c'était quelque chose de complètement fascinant. Vous n'en êtes pas le directeur depuis si longtemps, vous êtes le directeur depuis 10 ans.
Depuis 10 ans, oui.
Et Lumière dans la nuit, qu'est-ce que c'est? C'est une revue qui recense, enfin qui se penche sur la question des ovnis, des objets volants non identifiés.
C'est ça.
Vous êtes un spécialiste de cette question.
Oh, c'est un bien grand mot, vous savez.
Ouais, enfin, vous vous intéressez à cette question depuis longtemps.
Depuis, oui, 32 ans.
Depuis 32 ans.
32 ans.
Donc au fond, vous devez avoir quand même de vagues notions.
Et je ne fais plus que ça depuis 10 ans.
Bon. Donc 32 ans de
bon
passion,
délai.
Dont 10 ans de passion exclusive, ça permet quand même d'en parler d'une façon informée.
Oh, je dirais pas que je suis passionné, hein. Non, ça...
C'est pas passionné.
Ah non, c'est pas passionnant l'ufologie, vous savez. On peut avoir tendance à s'imaginer au départ que ça va être passionnant. Et en fait, quand on plonge vraiment dans ces choses-là, on s'aperçoit que c'est pas passionnant à plein temps. Là, on découvre des aspects du problème qui sont loin d'être réjouissants ou enthousiasmants.
Je suppose que c'est un milieu qui, comme tous les milieux, est agité de querelles intestines, de jalousie, de...
Bon, absolument.
Oui, mais ça, à mon avis, bon, c'est pas très étonnant. Je pense que chez les...
C'est aussi un milieu qui est...
Les cordonniers et les...
Dans lequel
les chapeliers, c'est la même chose.
Le vrai travail est extraordinairement saboté.
Ouais. Alors, comment avez-vous, vous, commencé à vous intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie qui a fait qu'un beau jour vous avez dit, tiens, je vais essayer d'en savoir plus sur ces ovnis?
Oh, c'est un petit incident insignifiant en lui-même. J'étais un jour de janvier 66 en train de photographier des avions qui se posaient au Bourget. Et j'ai vu quelque chose de tout à fait étonnant dans le ciel, qui d'ailleurs n'était pas un ovni, mais qui était un authentique phénomène d'optique atmosphérique très très rare sous nos latitudes, que d'ailleurs je n'ai jamais revu depuis.
Il y a de lenticulaire, hein?
Non, c'est pas ça. Mais si je vous explique ce que j'ai vu cet après-midi-là, je veux bien le faire, mais on n'aura plus le temps de parler des ovnis.
Bon, alors, parlons. Donc c'était un phénomène d'optique que vous avez identifié.
Qu'on a identifié pour moi le soir même, parce que ça m'avait énormément intrigué, et en cherchant l'explication au phénomène d'optique atmosphérique que j'avais vu ce soir-là, et qui en fait est un phénomène qui est plutôt courant dans les régions polaires, mais qui est très rare sous nos latitudes, je suis tombé sur des gens qui s'intéressaient au problème des ovnis. Ça, c'était en 66. Ça m'a beaucoup étonné, mais j'étais très jeune à l'époque, donc j'étais relativement disponible. Je m'accordais beaucoup de disponibilité. Et par curiosité, j'ai un petit peu plongé, j'ai même beaucoup plongé là-dedans. Et comme vous pouvez le constater, j'en suis pas ressorti. Tout au moins pas pour le moment.
Donc vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Je suis tombé dedans, oui.
Alors, en dehors des considérations enfin des querelles de personnes ou des querelles de milieu, ça, qui sont traditionnelles, qui sont obligatoires dans toutes les sociétés, qu'est-ce qui explique que, étant tombé là-dedans tout petit, vous ayez continué à vous intéresser à ça, alors que vous me disiez à l'instant que ça n'était pas une passion?
Oui, non, c'est une passion qui est trop dure. C'est trop dur. On se heurte à trop de questions dont on n'entrevoit pas la réponse pour que ça puisse être l'objet d'une passion, en ce qui me concerne tout au moins. C'est trop conflictuel, c'est trop... Moi j'aime pas le mystère, je vous le dis franchement, j'aime pas le mystère.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que vous vous employez à le démystifier.
Oui, on peut dire ça effectivement. Non, c'est plutôt dans mon cas personnel, ce qui m'a poussé, je pense, à persister. Paradoxalement, c'est tous les mensonges qui courent à propos de ces phénomènes, tous les mensonges et toutes les idées fausses. Il y a beaucoup de mensonges, ça c'est certain, et il y a aussi des idées fausses, tout simplement. Et ça m'agace. Si vous voulez, les ovnis, ça me passionne pas, ça m'agace. C'est pour ça que je suis là.
Ça vous démange, donc vous vous grattez depuis 30 ans.
Absolument.
Alors, on dit OVNI, mais déjà dans le mot OVNI, avant on disait soucoupe volante, puis on a trouvé que soucoupe volante c'était trop sensationnaliste, donc on a employé le mot de UFO, enfin en anglais, et puis en français on a dit OVNI. Mais déjà quand on dit OVNI, il y a eu une espèce d'abus de langage, parce que il y a le mot objet dans OVNI, un objet volant. Ce que vous venez de nous raconter à l'instant, votre premier contact avec un OVNI, c'était justement pas un objet volant. Enfin, c'était un objet au sens où un phénomène est un objet.
Oui, ouais. Mais ce qui a déclenché ma chute dans tout ça, c'était pas la vision d'un OVNI, encore une fois, hein, c'était la vision d'un phénomène d'optique atmosphérique très étonnant, mais qui ne présente qu'un rapport avec ce qu'on appelle les ovnis. Hein. Alors, sur les ovnis, il y a énormément de malentendus qui courent, et c'est pas pour rien qu'ils courent, et ils sont à coup sûr entretenus. C'est une question qui est très très délicate. Mais maintenant, ça commence à faire pratiquement un demi-siècle qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus. Les gens qui ont étudié le problème ont parfois réussi à comprendre des choses, et on dispose quand même maintenant de certains acquis. Ils sont très limités, mais ils existent quand même. Et à mon avis, ça permet de faire un petit peu le point, de situer le problème. Si vous voulez, j'aimerais vous en dire deux mots.
Oui, mais c'est pour ça que vous êtes là, oui, parce que...
Les gens ont tendance à avoir une opinion, très rapidement. Sans avoir d'informations, ils ont très facilement une opinion. Les ovnis, ils sont pour ou ils sont contre? Moi, je vous dis franchement, je suis ni pour ni contre. Je vois aucune raison d'être pour ou contre. Je suis simplement pour le fait d'essayer de comprendre les choses quand elles ne sont pas claires. Alors, les raisons pour lesquelles tant d'idées fausses, tant de conceptions complètement erronées et fondées sur rien, pollue le problème, elles sont relativement simples. Il suffit de faire quelques hypothèses, vous allez voir, elles sont très peu nombreuses. Si on s'astreint à aborder le problème dans le cadre de ces hypothèses, alors les choses prennent un sens, il y a quand même plus ou moins une perspective qui se dessine, et on arrive peut-être à faire du travail utile, je l'espère bien. Alors,
oui, parce que au fond, c'est une histoire qu'on peut, enfin, l'observation, ou plutôt la réflexion sur cette question, elle peut être probablement ramenée à quelques grandes catégories simples, ou à quelques questions simples en tout cas. Est-ce que c'est d'origine hallucinatoire? Est-ce que c'est une illusion d'optique? Est-ce que c'est un engin, est-ce que ce sont des engins, vraiment? Ces engins sont-ils d'origine terrestre ou d'origine extraterrestre? Et s'ils sont d'origine terrestre, est-ce que c'est des engins contemporains ou des engins, un auditeur pose la question, venus ou du futur ou d'un autre continuum spatio-temporel?
Terriblement vous décevoir, ouais. Mais je n'ai pas la réponse à cette question-là. Hein. Si vous voulez,
Non, mais c'est les questions qu'on peut se poser.
Non, à mon avis, il ne faut pas se les poser.
Non, parce que
si on se les pose, vous savez, si on se pose des questions sur l'origine de ces phénomènes, alors qu'on ne sait que très peu de choses, voire rien du tout, sur leur manifestation, on tombe nécessairement dans des idées fausses. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord, c'est peut-être moins passionnant, mais c'est nécessaire, il faut d'abord acquérir un certain nombre de connaissances sur les manifestations du phénomène. C'est par là qu'il faut commencer.
Mais ça, vous nous disiez tout à l'heure que depuis 50 ans, à notre époque, c'est notre époque de forte médiatisation, de cinéma, de télévision, de photographie, d'enregistrements divers, de radars, d'observations spatiales, etc. À notre époque, depuis 50 ans, on a accumulé quand même un nombre considérable d'observations. Donc déjà, on a une base de travail là.
On peut... Absolument, et on s'en sert d'ailleurs, vous savez.
Et vous faites partie, vous, des gens qui ont recensé ou qui participent à la recension, au moins médiatique.
Absolument, moi je fais partie des gens qui ont envie d'utiliser les matériaux accumulés depuis un demi-siècle et d'essayer de voir ce qui en ressort.
Et vous avouerez qu'il y a quelque chose d'étrange dans le fait que c'est pratiquement le seul domaine où on fait des recherches depuis 50 ans et où des gens sérieux font des recherches, parce qu'il y a des allumés, il y a des dingos, il y a des gogos, des escrocs, des Absolument. Mages, des gourous, des tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des gens sérieux, des scientifiques qui ont fait des observations sérieuses. Tout. C'est le seul domaine dans lequel, au bout de 50 ans d'observation, on se contente de continuer à accumuler les observations, et il n'y a pas une théorie générale.
Oh non, il n'y a pas une théorie générale. Il y a des discours théoriques qui fleurissent un peu partout et qui sont redoutables. Non, en fait, si on veut, je crois, profiter de l'acquis de ces environ 50 années d'observation et de travail sur la question, il faut aborder le problème, c'est ce que j'essayais de vous dire il y a un instant, par le biais d'un tout petit nombre d'hypothèses qui donnent un sens aux choses. Apparemment, ces phénomènes-là, d'abord, il est inutile d'en parler si on ne sait rien sur eux, si on ne connaît aucun exemple, si on n'a jamais parlé avec un témoin, c'est pas une bonne chose de se faire une opinion. Mais si on a quelques connaissances sur les manifestations, pour qu'elles prennent un sens, il faut admettre qu'il y a quelque chose dans notre environnement, je dis bien quelque chose, hein, j'emploie à dessein les termes les plus vagues possibles. Il y a quelque chose dans notre environnement qui se manifeste, mais qui se manifeste d'une manière très particulière, tellement particulière que ça ne ressemble à rien de ce qu'on a appris au cours de nos études, ni à la petite école, ni plus tard, ça ressemble à rien ou pratiquement rien de ce que la vie quotidienne nous amène à côtoyer. C'est des types de manifestations qui, en quelque sorte, développent autour d'elles une espèce de camouflage d'une efficacité, disons le mot, diabolique.
Je retiens le mot, mais je voudrais vous demander de revenir sur ce que vous avez dit juste avant. C'est capital ce que vous venez de dire. Je crois c'est un problème qui est tellement intéressant, pittoresque pour le grand public, que ce que vous venez de dire est énorme. C'est-à-dire que vous nous dites que les manifestations ne sont pas distribuables ou ne sont pas, on ne peut pas arriver à les soumettre à des catégories habituelles de notre pensée.
Non, vous savez, c'est
de notre observation.
Non, on peut pas. Ça a l'air de transcender notre manière de penser, de concevoir des choses, de réfléchir habituelle. Mais de façon générale, un comportement que je qualifierais de fantomatique. Les manifestations prennent de façon générale là aussi un aspect absurde, volontairement déroutant.
Grotesque,
c'est le mot, je vois qu'on se comprend. Ces choses-là, en quelque sorte, se déguisent en quelque chose qui n'existerait pas, si vous voulez. Ça se manifeste dans des circonstances telles que les témoins, qui sont toujours des personnes isolées, ils font part de leur aventure, de leur expérience, ne seront pas pris au sérieux. Les observations les plus intéressantes, c'est évidemment pas les observations faites à 15 km de distance, mais c'est les observations faites de près, parce que les gens voient mieux ce qui se passe, fournissent des descriptions plus précises. Or, plus une observation est rapprochée, c'est-à-dire plus la description est riche en détails, plus ces détails sont démentiels, grotesques, absolument invraisemblables.
Alors, Monsieur Ménard, vous avez dit une chose à l'instant. Vous avez dit les observations, les observateurs, les témoins sont toujours isolés. Or, il y a quand même des dizaines et des dizaines d'observations qui ont été faites par des groupes, des petits groupes de personnes. Est-ce que vous voulez dire, quand vous parlez d'isolement, vous voulez pas dire une personne seule, vous voulez dire un groupe de personnes?
Oui, les témoins sont soit des personnes seules, ça doit représenter une moitié des observations, je pense. Soit des groupes très peu nombreux. Et vous savez, si vous voyez quelque chose de complètement démentiel, quelque chose qui va prêter à sourire ou carrément à rigoler, si, que vous soyez seul, que vous soyez deux ou trois, le message passera mal si vous essayez de faire connaître votre expérience. Et il me paraît, peut-être pas certain, je voudrais pas être aussi affirmatif, mais enfin tout au moins hautement probable, qu'on a affaire à des manifestations à l'évidence intelligente, mais qui, en quelque sorte, ferait exprès de prendre des apparences grotesques, absurdes, démentielles, inacceptables, de manière que l'existence de ce phénomène ne soit pas communicable par les témoins. Il y a des exemples de ça, je pourrais, si on avait le temps, vous en citer quelques exemples, qui sont extrêmement éloquents. Les gens voient des choses, quand ils les voient de près, qui sont complètement folles. Et pourtant...
Un exemple, quand même, citez-nous un exemple de choses...
Bon, je vais vous citer un exemple qui me vient à l'esprit, là. Il est vraiment paroxystique, hein. Je le regrette un peu, d'ailleurs. Ça s'est passé en Bretagne, en 1954, près de Lorient, dans un petit pays qui s'appelle Gavre. Il y avait là des gens, c'était une famille de pêcheurs, c'était le soir, si je me souviens bien, je vais raccourcir, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça nous entraînerait un peu loin. Il y avait un couple de pêcheurs, là, enfin, il y avait un pêcheur et sa femme. Le pêcheur sort pour aller faire une course dans un magasin un petit peu à quelques mètres de la maison. Sa femme se dit, je vais en profiter pour fermer les volets. Son mari sort et il emporte une bouteille vide. Vous savez, c'était à l'époque où les bouteilles étaient consignées. Il sort, il avait une bouteille vide à rapporter au magasin et il tenait la bouteille par le goulot.
Il avait mis
un doigt dans le goulot, vous voyez.
D'accord.
Bon. Et il sort, il va à l'épicerie voisine. À ce moment-là, la femme sort de la maison pour fermer les volets et elle voit un truc dont je n'ai pas la description très précise en tête, mais enfin elle voit une soucoupe volante qui descend très vite, qui se pose devant la maison à quelques mètres de la maison. Donc elle est sidérée, elle est peut-être plus ou moins pétrifiée. Elle voit des petits personnages qui sortent précipitamment de l'objet, qui rentrent dans sa maison, qui font une espèce de ronde autour de la table, dans la pièce principale, qui ressortent, qui montent dans le truc, et hop, le truc disparaît instantanément. J'ai presque honte de raconter une histoire pareille, tellement ça paraît démentiel, ça paraît fou, ça paraît... C'est pas idiot, il faut quand même appeler les choses par leur nom. Les rencontres rapprochées, c'est-à-dire les cas dans lesquels les gens voient un ovni de très près, présentent presque toujours pratiquement toujours cette caractéristique-là. J'en suis vraiment désolé, croyez-le bien.
Non, pas moi, parce que je pense que ce que vous dites, Julien. D'abord, je suis très très content que vous soyez venu et que vous disiez ça, vous, Joël Ménard, directeur du journal Lumière dans la nuit, parce que vous n'êtes ni un mystique, ni un prêtre, ni un ricaneur professionnel. Et vous parlez d'un sujet que vous étudiez depuis longtemps, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez employé des mots qui sont grotesques et diaboliques. La troisième chose, c'est que quand vous êtes arrivé, quand on a commencé à parler, je vous ai posé la question, je vous ai demandé si c'était une passion, vous avez répondu d'une façon presque brutale, non, c'est pas une passion, et ça m'a troublé, parce que j'ai pas compris. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez dit c'est pas une passion. Et la quatrième chose, je vais dire une chose, j'espère que je vous blesse pas en disant ça, mais j'ai l'impression d'avoir en face de moi, et tant pis je le dis, un homme qui a peur de quelque chose.
Ah non. J'ai pas peur.
Ou qui est effrayé, enfin...
Effrayé, écoutez, si on pouvait en parler longtemps, j'approfondirais avec plaisir. Plus qu'effrayé, je suis écœuré. Je suis écœuré par la désinformation qui règne dans ce domaine. C'est pour ça que je trouve l'étude du phénomène pas du tout passionnante. Il règne une désinformation massive, à couper au couteau, et ça, c'est pas du tout joli à considérer, et c'est pour ça, c'est vraiment ça qui tue la passion.
Je vais vous proposer mon hypothèse, et puis, ce que je ressens, ce que je crois comprendre, puis vous allez me dire si je me trompe, des auditeurs, en plus, me tendent la perche, en quelque sorte. Un auditeur dit, votre invité n'aime pas les hypothèses sur le sujet qu'il traite, mais il y a peut-être une réponse, et cette réponse est la réponse de l'Église, à savoir que le monde invisible démoniaque est capable de se matérialiser et de créer un environnement. Il serait intéressant de connaître si les gens sont confrontés à ces événements, si les gens qui sont confrontés à ces événements ont de solides bases religieuses. Un auditeur dit, avez-vous lu le livre de Jean Robin, Les ovnis ou la grande parodie?
Oui, bien sûr.
Un auditeur dit, en 94, dans Bonum Certamen, j'ai lu un article de l'abbé Moreau qui disait que les ovnis étaient des phénomènes sataniques précurseurs de l'antéchrist. Le savez-vous et qu'en pensez-vous?
Mais je suis pas loin de penser la même chose. Voilà. J'en suis pas loin du tout.
Alors, c'est ce qui explique donc votre réflexion étrange. C'est-à-dire, je n'ai pas de passion pour un sujet que j'étudie depuis 32 ans. Le seul cas que j'ai entendu, où j'ai entendu dire exactement la même chose, c'est un exorciste qui m'a dit, il y a 50 ans que j'étudie les phénomènes démoniaques, et si je lui avais dit, est-ce que ça vous passionne, je lui ai pas posé la question, parce que c'était évident que ça ne passionnait pas, si je lui avais dit, est-ce que ça vous passionne, ça l'aurait choqué. Donc, je comprends maintenant pourquoi vous m'avez dit que ça ne vous passionnait pas,
non,
que ça vous écœurait.
Ça m'écœure doublement. Encore une fois, il y a la désinformation... gigantesque qui pèse sur cette question qui elle m'écœure profondément. Je me suis beaucoup chamaillé avec les professionnels de cette désinformation. Là, j'ai vraiment manqué de diplomatie. Je leur suis rentré dans l'art carrément. J'ai bien fait d'ailleurs. Je recommencerai chaque fois que ce sera possible. Mais en plus de ça, il y a le phénomène en lui-même qui est tout sauf franc. Je vous disais tout à l'heure que je suis assez convaincu, je dois quand même pas être le seul, que le phénomène fait exprès de prendre des apparences très difficilement communicables, des apparences absurdes, grotesques. J'ai pas fini de vous raconter l'histoire de Gavre, là, oui. Mais bon, peu importe.
Enfin, déjà, l'épisode que vous avez raconté est pas mal, ça.
Ouais, vous savez, quand Marie est revenue, la bouteille, il avait entendu un sifflement très aigu, et la bouteille qu'il tenait par le goulot, enfin, avec un doigt dans le goulot, s'était cassée au niveau du goulot, il s'était retrouvé avec le goulot de la bouteille autour du doigt, et puis la bouteille qui était tombée par terre. Mais il n'avait pas vu l'OVNI, lui.
Il n'avait pas bu un peu de chouchène avant.
Non, je pense pas. Quand il est revenu, il a trouvé sa femme dans un état
hystérique,
que je vous laisse imaginer. Bon, elle lui a raconté ce qu'elle avait vu. Il a dû, j'imagine, avoir beaucoup de mal à prendre son récit au sérieux, comme les auditeurs doivent avoir du mal, je pense, à prendre ça au sérieux. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est idiot. Les apparences sont idiotes, sont stupides, sont révoltantes de bêtises. Ça a l'air d'être des choses inventées par un enfant de 3 ans. Mais on tombe toujours là-dessus. Et en plus, il y a quand même une cohérence dans l'ensemble. Il y a des éléments qu'on retrouve toujours. Et puis il y a aussi, il n'y a pas que les observations rapprochées, il y a, heureusement, des observations très fortes, des observations très bien attestées, qui sont malheureusement très peu connues, et là, la désinformation a très très bien fait son travail.
Est-ce que les désinformateurs dont vous parlez, donc qui sont les propagateurs du mythe OVNI à travers des articles, des livres, des milliers de pages d'émissions, mais de films.
C'est des gens qui présentent les OVNI comme du mythe ou comme de la rumeur. Ils aiment bien ces
alors il y a ça, il y a ceux qui prétendent que c'est une rumeur ou que c'est du mythe, et il y a ceux qui prétendent que c'est une réalité physique, que ce sont des visiteurs de l'espace et qui exploitent ça.
Vous savez, le phénomène, il joue avec nous, là, j'ai l'impression, et il joue avec nos catégories mentales, avec Il joue avec des choses comme le principe du tiers exclu. Hein. Bon, c'est des mots bien compliqués, mais ça recouvre une réalité enfantine. Hein. Une proposition logique est vraie ou fausse. La porte, c'est... là-bas, elle est ouverte ou elle est fermée. Oui, c'est
enfin,
ça le principe.
Encore que Kordzinski disait qu'elle pouvait être ouverte, fermée, fermée, ouverte. Ça, c'est vraiment...
Ah oui, mais ça, c'est...
La philosophie non-aristotélicienne n'admet pas le tiers exclu.
On peut peut-être vivre sans Kordzinski. Enfin, moi, j'ai réussi à vivre sans.
Oui, on peut, mais c'est amusant de savoir qu'il a existé.
Et là, on a affaire à un phénomène qui a l'air d'aimer violer le principe du tiers exclu, de nous mettre dans des face à des situations absurdes, à des contradictions en apparence insolubles. C'est-à-dire que les gens qui abordent le phénomène, en gros, il y a deux voies possibles. Quand on débute, quand on est jeune. Ou bien on se dit, mais là, il y a un truc formidable, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'on y croit. Hein? Ou bien on se dit, tout ça, c'est de la blague, c'est de la foutaise, hein? Et je vais mettre un peu d'ordre là-dedans, et je vais démasquer tous ces menteurs et tous ces crétins. Bon, aucune de ces deux positions n'est tenable. Si on considère le phénomène comme quelque chose, comme une réalité faisant partie, enfin, une réalité parmi d'autres dans le monde, au même titre que les girafes et que les autobus, on se heurte à des invraisemblances. Ça marche pas du tout. C'est pas une réalité comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut voir à la demande. C'est pas quelque chose qui se comporte de façon logique. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir photographier en se planquant dans les buissons et en attendant que ça vienne. Enfin, peut-être dans certains cas, mais c'est marginal. Bon, c'est une réalité qui est très fuyante, très fantomatique, très paradoxal. Et d'autre part, si on rejette tout, si on part sur l'idée qu'on a affaire à des blagues ou à des affabulations, alors on est amené à mentir, je crois, je le dis franchement, ils l'ont suffisamment prouvé, on est amené à mentir, à tricher, pour étayer cette position-là. Autrement dit, si on considère ça comme une réalité, ça coince, ça va pas bien. Si on considère ça comme quelque chose de complètement irréel et de complètement inexistant, ça coince aussi. On est dans une situation intermédiaire, c'est pas oui, c'est pas non. Les ovnis, ça, c'est là un moment, et puis un instant après, hop, c'est plus là, vous savez pas comment c'est parti. Ça a un comportement fondamentalement fantomatique, et ça, notre société a beaucoup de mal à reconnaître. Beaucoup de mal, elle le refuse, elle tourne carrément le dos à cette semi-réalité-là. Moi, je crois qu'on a affaire à quelque chose de semi-réel, si vous voulez.
Alors, justement, on est dans les mondes intermédiaires.
Oui, on est
un
dans l'intermédiaire
nous dit,
jusqu'au cou.
N'y a-t-il pas de recoupement fait entre ces phénomènes actuels et les vieilles légendes qui traînent dans divers pays? A-t-on pu établir un parallélisme? L'impression qu'on a, c'est que l'intelligence dont vous parliez tout à l'heure, et qui est forcément une intelligence maléfique, puisqu'elle fait des choses...
Je mettrais des guillemets au mot intelligence.
Oui, intelligence, mais avec des guillemets, absolument. La puissance.
Oui, plutôt.
La puissance qui est derrière ça, elle se manifeste d'une façon qui est accessible à la cible. C'est-à-dire que quand elle parle, quand elle s'exprime dans un milieu qui n'a pas de technologie, elle n'utilise pas les apparences de la technologie. Et donc on a les lutins, les fées, les phénomènes magiques, etc. Quand elle est dans un milieu technologique comme le nôtre, dans une civilisation technique comme la nôtre, elle prend les dehors de la technique.
Absolument.
C'est ça. Donc je crois qu'on se comprend bien en réalité. Il est quand même assez probable que la puissance qui est derrière ça n'est ni une puissance venue d'une autre planète, ni une puissance venue d'un autre continuum spatio-temporel, mais en quelque sorte cette fameuse puissance dont on a dit longtemps que son piège le plus intelligent était de faire croire qu'elle n'existait pas. Et là, apparemment, elle est en train de commettre une boulette parce que pour manipuler, elle est bien obligée de montrer que finalement elle existe quand même.
Cette puissance a peut-être ses limites.
Ben, j'espère.
De toute façon, si des gens se posent ce genre de questions, si des gens se posent des questions sur l'origine de ces expériences, de ces phénomènes qui sont en fait des expériences personnelles, souvent des expériences intimes, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de commencer par consacrer 15 ans, 20 ans, 25 ans à l'étude, enfin le mot étude est un mot un peu fort, mais quand même à l'examen approfondi des manifestations du phénomène. Il ne faut pas partir d'emblée dans une voie d'explication sans avoir pratiqué une espèce de fréquentation longue et assidue, si possible, du phénomène, ou tout au moins des témoins. Des témoins, parce que la source d'information, c'est quand même les témoins. Il n'y en a pas d'autres. Et il faut savoir ce que ces gens-là vivent. C'est très compliqué. Je vous en parlerai avec plaisir pendant des heures.
Les témoins dont vous parlez sont des gens qui sont, la plupart du temps, sont des gens blessés. L'expérience, que ce soit l'expérience de la vision d'un ovni ou l'expérience de l'enlèvement, puisqu'on parlait de ça avec Marie-Thérèse Debrosse le mois dernier, sont des expériences qui laissent des traces lourdes.
Moi, je dirais des gens troublés plus que blessés. J'ai surtout rencontré des gens troublés, oui. En France, des gens blessés mentalement, blessés physiquement. On peut trouver quelques cas. Hein. Il y a des cas de lésions oculaires qui sont particulièrement intéressants, pas réjouissants, mais intéressants.
Oui, mais vous savez, quand on se penche sur le cas des grandes mystiques, que ce soit Thérèse Neumann ou Catherine Emmerich ou par exemple Yvonne Aimée de Jésus. On va diffuser prochainement dans cette émission le témoignage du père Labutte, qui a écrit un livre tout à fait passionnant, tout à fait extraordinaire, puisque le père Labutte était le fils spirituel d'Yvonne Aimée de Jésus. Il raconte la vie d'Yvonne Aimée de Jésus, qu'il a fréquenté tous les jours, avec laquelle il partageait les journées, etc. Et il m'a raconté, moi, le week-end dernier, quand je suis allé le voir en Normandie, il m'a raconté comment alors que Yvonne Aimée de Jésus avait la vision du malin qui lui apparaissait, lui qui était présent, on voyait pas le malin, mais il a senti la température. Ils étaient deux témoins en plus d'Yvonne Aimée, il y avait une autre sœur et lui, et il a senti la température de la pièce monter à une telle vitesse et à un tel degré qu'il était pratiquement brûlé.
Il y a un parallèle intéressant à faire, effectivement. Parce que dans ce que vous nous exposez là, il y avait des éléments qui indiquaient la présence de cette puissance, mm-hmm. et puis il y en avait qui la contredisaient. Et on a toujours affaire à ça en ufologie, hein. On a toujours affaire à des situations très contradictoires, à des éléments qui vont dans tous les sens. Et moi, j'aime bien parler de camouflage parce que c'est une notion simple et, je crois, compréhensible. Mais attention, c'est pas un camouflage. Ça consiste pas à se mettre des feuillages autour des oreilles pour se déguiser en arbuste. Hein. C'est un super camouflage. C'est quelque chose d'infiniment plus subtil et plus performant que les camouflages qu'on sait utiliser, nous, couramment. C'est quelque chose de très malicieux.
Monsieur Ménard, je vais vous poser pour finir une question qui peut paraître paradoxale et même stupide. Est-ce que Lumière dans la nuit est une revue accessible à tout le monde? Ou est-ce qu'il faut déjà avoir une espèce de culture de la question pour s'y intéresser?
Ah, j'aime bien votre question. C'est absolument accessible à tout le monde, à mon avis. Hein. La condition essentielle, c'est de savoir lire.
Bonne réponse.
C'est à peu près la seule. C'est un domaine. C'est pas seulement Lumière dans la nuit. C'est l'ufologie. C'est l'étude de ces phénomènes qui est accessible à tout le monde. Il suffit d'être honnête, d'être de bonne foi, et puis d'éprouver une curiosité pour ce mystère.
Alors, je comprends beaucoup mieux maintenant que je vous ai entendu pourquoi, depuis que j'ai dit que j'allais vous recevoir, j'ai reçu quelques appels de gens bien intentionnés qui m'ont dit « Vous êtes fou de recevoir Ménard, c'est un psychopathe. »
Complètement cinglé, ouais. Ménard. Complètement.
J'ai jamais rencontré, sur ces questions-là, quelqu'un d'aussi équilibré que vous. Alors, je dois dire que là, ça c'est quand même, c'est en quelque sorte la signature, quoi. C'est le signe final. Quand quelqu'un vous téléphone en disant faut pas recevoir ce type parce que c'est un fou, vous courez des risques, et que vous découvrez que justement ce type est tout sauf fou, vous dites que s'il y a un fou parmi les deux, c'est peut-être celui qui vous a téléphoné. Je vous remercie, Val Ménard.
C'est moi qui vous remercie.
À laquelle on peut se procurer Lumière dans la nuit. Et je suis bien content de savoir d'abord que ça existe toujours, et de savoir en plus que quand j'étais jeune, j'ai lu quelque chose qui était qui allait durer si longtemps et qui allait surtout avancer dans une direction aussi, aussi intéressante et aussi originale que celle que vous avez choisie.
Oui, ben ça, il faut en remercier son fondateur, Raymond Vénit. Alors, l'adresse actuelle, je vous la donne, c'est boîte postale 3.
Alors, ça s'appelle Lumière dans la nuit. Alors,
Lumière, c'est un, au pluriel.
C'est un quoi? C'est un mensuel?
C'est un bimestriel. Bimestriel, c'est-à-dire 6 fois par an. L'adresse, donc, alors ça, c'est une adresse qui va rester valable encore pendant un certain temps. Je sais malheureusement pas combien de temps, mais elle a de grandes chances de plus être valable dans 6 mois.
Bon, bon, on donnera la nouvelle adresse.
Alors, si c'est pas... actuellement, c'est boîte postale 3.
Oui.
77123.
77123.
Le Vaudouet. V-A-U. D-O-U-E, accent aigu, pourquoi vous riez?
Je trouve que c'est quand même une assez jolie adresse.
Je ne l'ai pas fait exprès.
Merci beaucoup, Joël Ménard. Vraiment, c'était tout à fait passionnant.
Et c'est moi qui vous remercie.
Je veux dire que les réactions des auditeurs sont extrêmement positives. Je vous remets un message que je ne lis pas à l'antenne parce que... parce que voilà, je lis pas, c'est tout.
Mais, vous savez, on se fait plein de copains en faisant de l'ufologie, c'est formidable.
Mais là, c'est pas un message d'injure, c'est quelqu'un qui vous dit, attendez-vous à savoir. Voilà.
Ah bon?
Bon, alors, une auditrice nous parle de, bien sûr, de l'ouvrage de Carl Gustav Jung, un mythe moderne, sur les ovnis. Il dit que c'est un ouvrage très passionnant. Un auditeur nous dit très bonne émission, un fidèle auditeur pas trop rancunier, car amateur de football, vous l'avez injurié en traitant tous les amateurs de débiles. Ça, je me suis fait tirer les oreilles d'ailleurs par François Brignot la semaine dernière, et j'en demande pardon à tous les amateurs. Pour finir, encore un message, une seconde, vous permettez ? Merci pour votre humour, votre franchise me fait beaucoup rire, je ne sais pas pour me jeter des fleurs que je dis ça, je vous écoute toujours avec beaucoup de plaisir, sincèrement, et c'est signé un auditeur de gauche, et même d'ultra-gauche, qui trouve que la gauche française c'est la fausse gauche, et qui ne voit pas le rapport entre la fausse droite et la vraie gauche, mais qui voit très bien le rapport entre la fausse droite et la fausse gauche. Je m'y perds, lui aussi a de l'humour, sur ce, vive la France, et à bas les nominalistes. Voilà, donc quelqu'un d'ultra-gauche qui est antinominaliste et patriote, à mon avis, on pourrait s'entendre assez bien. Merci, à la semaine prochaine pour une autre émission de 3 heures. Que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech. Une émission du 24 juin 1998, rediffusée dimanche 3 janvier 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Elle a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.